Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes vénitiens, mes plasticiennes, et non, je ne me lasserai jamais de vous trouver des surnoms. J'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux depuis que j'ai pris quelques jours de vacances pour la Toussaint. La nana de mon père nous a laissé sa baraque en Bretagne et nous y sommes allés avec mon mec en voiture. On a eu l'orage mais seulement une heure sans électricité et on n'a pas eu froid grâce au bon feu de cheminée. C'était vraiment génial de décrocher. À Bagnolet, on a un tout petit ballon d'eau chaude, ce qui fait que celui qui prend sa douche en deuxième a plus trop d'eau chaude. Et là, on s'est prélassé dans de longs bains, on s'est promené. Il n'a pas plu tout le temps, non, on a aussi eu un soleil rayonnant. On a cuisiné, on s'est fait des petites pommes au four qu'on a trop cramées, on a mis de la chantilly dessus, on a un peu grossi, on a bien dormi. Car Minou ne nous réveillait pas le matin, c'est les voisins qui s'occupaient de lui. On aurait bien aimé rester quelques jours de plus, mais il fallait rentrer le boulot. Le boulot agréable quand il s'agit de s'entretenir avec un invité comme celui d'aujourd'hui, le merveilleux humoriste, journaliste, chroniqueur, être humain curieux, David Castello-Lopez. Attention, je me trompe dans mon poème et à deux reprises dans la discussion quand je dis que je l'ai vu à la Cigale, c'était au Trianon. David est complet le 10 novembre prochain aux Folies Bergères, mais vous pourrez le voir sur scène en juin prochain à l'Olympia. La première le 6 juin est complète, mais vous pouvez encore réserver pour les 7 et 8 juin. Dans cet épisode, on a parlé des choses que l'on fait seul, loin du regard des autres, comme débattre avec une personne imaginaire. Quels sont les rires du public qui nous rendent fiers et ceux que l'on sait un peu faciles. David nous raconte ses débuts du journalisme très vite rigolo à la scène. Il nous révèle sa passion pour les archives, son angoisse du temps qui passe. Il fait l'éloge de son producteur woke, s'insurge contre les sommeliers prétentieux, nous décrit d'où il vient, le parcours de son père. Je vous souhaite une très belle écoute.
Permet d'être face à face, ouais. Et j'ai mis des lumières comme pour filmer, mais parce qu'elles sont plus douces que les lumières blanches.
Ah oui.
Sinon, qui font un peu aéroport.
Oui. Non, ça... là, c'est très bien, c'est très doux, c'est à la fois intime et professionnel.
Ah ouais, très bien. Je t'ai écrit un petit poème, David.
Wow.
Cher David, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. La première, c'était après ton spectacle à La Cigale. Je me suis beaucoup marrée. J'étais avec mon copain et nous avons croisé là-bas deux amis à lui, avocats, totalement fans de toi depuis des années, qui avaient la ref de toutes les vidéos. Moi, j'avoue que je découvrais et que j'ai apprécié ta réflexion sur le langage politique et les signes dans la pub. J'ai aussi beaucoup aimé la partie sur ton père, très émouvante et originale. Ton double sentiment au moment de disperser des cendres. Et cette dualité te correspond bien. Entre le journalisme et l'humour, les deux au service d'un but, dézinguer la communication mensongère. Alors, qui est le vrai David Castello-Lopez? L'intervieweur de Small Talk pour Combini, le chroniqueur dans la matinale de France Inter, un vidéaste franco-portugais, un peu de tout, l'enfant que tu nous montres à un moment en photo, le jeune adulte qui va à Berkeley, qui ment sur sa carte, l'homme aujourd'hui encore passionné par les reliques, moi aussi, vraiment passion pour les reliques. Peux-tu
passion
nous dire...
péronnée de saint, voilà.
Ah ouais, non mais vraiment, je suis allée au musée de la relique à Sienne,
ouais,
je te raconterai. Tellement. Peux-tu nous dire, toi David, quand es-tu le plus authentique?
Quand est-ce que je suis le
devant
plus authentique? En tout cas, même les gens pas authentiques, je pense que quand ils sont seuls, ils le sont un petit peu plus. L'inauthenticité, elle naît quand même de la confrontation avec les autres et de leur regard. Et quand il n'y a pas de regard, bon bah, je pense que c'est dans ces moments-là, quoi. Ouais, quand on est seul, quoi.
Qu'est-ce que tu t'autorises seul que tu fais pas quand il y a d'autres gens autour? part péter. Pardon d'être si trivial.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ça, c'est quand même l'une des grandes joies de la solitude.
C'est vrai, c'est une des joies de la solitude. Non, je parle
tout seul.
Ah. Alors que s'il y a des gens, si je parle tout seul...
Ça va les inquiéter.
Ça va les inquiéter. Ils vont me juger en me disant genre, ah bah voilà, un mec qui parle tout seul. alors... non, je parle tout seul. Mais ça, je pense qu'on est, on est plusieurs... Enfin, peut-être, j'espère qu'on est plusieurs à ça. Mais tu sais, tu fais des conversations avec, ou, avec des gens qui sont pas d'accord et tu gagnes, mais à haute voix. Et j'ai, je peux pas te laisser dire ça alors qu'il y a personne. Et il a pas dit puisqu'il est pas là. Mais tu sens qu'il pourrait dire celui que t'as en tête. Et comme ça tu réponds et tu
Ah ouais, tu débats tout seul.
Ouais, ouais, ouais. Et des fois tu l'autre t'énerve alors que vraiment c'est un autre imaginaire. C'est juste que tu as suffisamment d'informations pour la personne pour l'imaginer dire certaines phrases et voilà, tu réponds. Voilà ce que je fais. Tout, voilà,
c'est et cette autre personne à qui tu réponds, c'est toi-même ?
Non, 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 non. C'est des gens que, c'est des gens que je connais et que je connais suffisamment pour imaginer des conversations avec eux dans, la, dans lesquelles j'ai raison.
Mais est-ce que tu leur réponds a posteriori par rapport justement à des disputes que vous auriez eues et où tu n'aurais pas eu le dernier mot ?
C'est. Non, c'est plutôt que, tiens, je sais qu'il pense ça, ça et ça, donc nécessairement sur cet autre sujet, je peux deviner ce qu'il me dirait, puisque je les connais sur les trois premiers, et là je fais, attends, excuse-moi, voilà.
Ah oui, c'est une forme de étoc.
C'est une forme de étoc a posteriori, quoi. Comme dans Amélie Poulain, quand elle dit, elle veut qu'il y ait un souffleur pour lui dire, il y a un truc comme ça. Elle a pas de répartie et là, elle voudrait qu'il y ait un souffleur de son existence qui la suive partout pour lui souffler les bonnes répliques. Quoi.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
Pour les avoir sur le moment et non pas trois semaines après.
Mais c'est bien parce qu'en tout cas, c'est une petite colère saine dirigée vers les autres. Moi, je sais que si je me parle toute seule, c'est plus pour m'engueuler moi-même.
Ah oui.
Ouais, ah oui. Je me dis, vous êtes complètement conne. Ah bah super. Mais parfois, ou des trucs juste de grand-mère quand je viens d'accomplir une tâche. Et c'est pas étoque, c'est étac.
Et tac.
Et c'est vraiment ce truc, tu vois, de cocher.
Oui.
Et tac, et ça c'est fait.
Et ça tac, c'est fait, ouais, ouais, ouais.
Ça, tac.
Ma mère faisait beaucoup ça aussi, de décrire tout ce qu'elle fait. Alors ça, c'est là, ok, ça
oui.
C'est bon,
oui.
Ça, ça va là,
là.
Ça, voilà, etc. Il y a Jérôme Niel qui a fait une story hier pour dire qu'il avait l'impression d'être devenu vieux parce que en replaçant un oreiller derrière sa tête la veille, il avait fait et hop. Et voilà,
ouais.
Et il s'est dit, ah
voilà,
ça y est, Yeuve.
Toi, Yeuve, parce que tu viens de t'acheter des lunettes ?
Moi, Yeuve, parce que Yeuve, dans les faits. Voilà, il y a une rêverie vraiment objective, hein, née quand même au début du premier mandat de François Mitterrand. Donc voilà, et ensuite, les lunettes, mais avant que ça commence, j'ai des lunettes depuis 20 minutes. C'est-à-dire que je suis allé chercher les lunettes chez l'opticien rue des Abbesses, et je suis venu directement ici. Donc, tu es en train de vivre les premières minutes de moi avec des lunettes. Et alors, j'avoue que je suis content d'en avoir parce que c'est un peu classe.
Ouais.
C'est un peu classe. Mais en même temps, comme toutes ces nouvelles choses que tu mets, ces accessoires sur ton visage, ça change quand même beaucoup. Et j'ai l'impression d'être déguisé en un mec à lunettes. Voilà.
Je vois.
Voilà. Mais tu as été très rassurante sur.
Mais vraiment, elles te vont bien, en toute sincérité.
Écoute, c'est pas moi de le dire, mais je crois que c'est pas mal. Ouais.
Elles te donnent un petit côté architecte suédois.
Ça c'est très bien et sans avoir à se faire chier à être architecte.
Là, donc j'ai l'impression que tu vas me dessiner une maison éco-responsable.
Et je pense que ce serait bien que ce soit vendu avec, tu vois. C'est genre avec le savoir-faire de dessiner des maisons. Mais ça me suffit qu'on croie que je dessine des maisons. C'est,
voilà. Pas besoin de
faire des études.
Ce qu'on a en commun aussi, c'est la petite loge où tu as joué pour la première fois donc ton spectacle authentique.
Non, ça ne peut pas dire que c'était le même spectacle. C'était
d'accord.
Un truc qui faisait une demi-heure et qui était... alors, il y a des petites choses qui sont restées dans le spectacle final, mais ça n'avait pas grand-chose à voir. Il n'y avait pas de ligne directrice sur l'authenticité. Il y avait la moitié, c'était sur un thème qui n'avait rien à voir avec tout ça. Et oui, il reste des trucs, mais genre, je sais pas, je faisais 10 minutes, ça s'est passé à 20 secondes. Il y a plus grand chose en commun avec le spectacle La Petite Loge, mais il n'empêche que c'est là que j'ai commencé vraiment à faire un spectacle en mon nom, avec Guillaume Poujabadi, qui est un autre humoriste qui lui continue à faire beaucoup de comedy club à Paris, ce que moi en fait j'ai jamais fait. J'ai juste fait La Petite Loge et ensuite mon spectacle dans
et ensuite La Cigale, enfin
et ensuite le Trianon. Et voilà, mais donc oui, La Petite Loge, mais je l'ai peut-être fait un peu beaucoup. J'ai fait 30 dates à La Petite Loge toutes les semaines de ma vie pendant 6 mois, et à un gros moment les samedis soirs aussi, donc pas de samedi soir. Voilà, tout ça pour des en tout cas des revenus sonnants et trébuchants qui sont assez modestes, faut le dire, parce que même si tu vends toutes les places à plein pot,
tu ne vends que 25 places
exactement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé La Petite Loge, c'était un vrai plaisir, et ça fait une petite gradation, ça te fait rentrer dans le spectacle un peu doucement, avec, ben oui, parce qu'en fait La Petite Loge, c'est une salle à Paris qui fait 25 places dans le 9e arrondissement, mais en fait moi je savais qu'elle faisait 25 places, et quand je suis arrivé je me suis dit ça fait pas 25 places en fait, et pourquoi en fait
25 maigres.
Ça fait 14 places.
Ah, 14
ça fait
places.
14. Ouais. Et le reste, c'est un couloir. C'est qu'ils mettent des chaises sur tous les endroits où c'est possible de mettre des chaises.
C'est
et donc, du coup, ça fait 25 en tout. Mais des places fixes, il y en a 14 en fait.
Ouais.
Ça fait 15 mètres carrés en tout avec la régie.
Oui, c'est le plus petit théâtre de France ou de la capitale ?
De Paris, ils disent. De Paris, et je pense que c'est très vrai, quoi. Mais avant ça, avant même La Petite Loge, j'avais fait dans mon salon devant 3 personnes.
Okay.
Et donc j'avais fait encore beaucoup moins que La Petite Loge. Tu vois.
Et c'était qui ces 3 personnes ?
C'était ma petite amie, c'était une de mes toutes meilleures amies qui s'appelle Asia Balufier, qui est une journaliste au Monde, et Guillaume Poujabadi, qui allait jouer avec moi sur scène. Et ce qui m'avait fasciné dans le fait de le faire chez soi comme ça devant 3 personnes, en plus que je connaissais très bien, c'est que en fait, c'est déjà un théâtre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un pacte qui est, je vais jouer devant vous, et c'est pas comme, vous ne me participez pas, tu vois, vous n'allez pas dire ce qu'on, c'est pas une discussion, c'est un spectacle, et à partir du moment où tu poses ce dispositif-là, et ben c'était déjà une salle de spectacle, et c'était mon salon, quoi.
Ouais. Et tu peux nous raconter, donc la genèse, en fait, la bascule. Parce que toi, à la base, t'es plutôt journaliste avant d'être artiste.
Oui.
Et ce moment du spectacle, tu te dis, en fait, tout ce qu'il y a de mieux dans ces vidéos, en fait, il faut qu'il y en ait une version sur scène.
Non, je pense. En fait, alors déjà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai pas beaucoup été un journaliste de type normal.
Ouais.
C'est-à-dire quelqu'un qui couvre l'actualité et qu'on envoie sur la place de la Concorde.
Voilà.
Je l'ai été un petit peu, mais pas beaucoup. Je l'ai été un petit peu pour l'effet Papillon. J'ai fait des reportages à l'étranger pour l'effet Papillon, tout à fait normaux. Avant ça, j'étais stagiaire. Ensuite, je travaillais à TSF Nova, où là, je faisais vraiment les flashs du nouveau dans la verdure. Où je parlais vraiment comme ça. Et ensuite, dès que j'ai fait des trucs un tout petit peu journalistiques personnels, il y avait déjà des blagues dedans, en fait. Il y avait toujours de l'info très précise. D'ailleurs, le premier truc que j'ai fait qui était un personnel s'appelait Le Chiffroscope. C'était sur Canal+. Et c'était où je racontais, c'était un dessin animé. Mais je le faisais, je posais des questions, en gros, sur des grands thèmes d'actualité, la pauvreté dans le monde, les inégalités, tout ça. Mais je répondais en dessin animé avec des trucs chiffrés, genre hyper précis, tout ça, mais avec des blagues déjà. Et donc, en fait, j'ai assez peu fait de journalisme traditionnel où on
sérieux.
Fait des sérieux. Et qui est très bien, c'est très bien que ça existe aussi, ça. Parce que c'est vrai que quand t'es journaliste, il faut quand même transmettre un petit peu une ambiance de neutralité. Et cette ambiance de neutralité, elle passe quand même mieux si tu parles du nouveau dans l'affaire Clearstream avec une sorte de même voix pour tous les journalistes. Pas trop d'adjectifs, pas trop de choses comme ça. Et ça passe beaucoup mieux comme ça que si tu fais. Voilà, même si tu peux faire ça de façon sérieuse. Mais donc en fait, moi déjà je faisais des blagues et ensuite j'ai fait des vidéos où il y a de plus en plus de blagues dedans. Et puis à un moment je me suis dit, ah, ça me titillait la scène. Parce que tu sais, bon, déjà c'était. Je me souviens que Pablo. Tu connais très bien Pablo Mira,
le Gorafi.
Le Gorafi. Et Pablo, quand j'ai commencé à travailler avec lui au Gorafi il y a presque 10 ans maintenant, en 2014, je savais qu'il était monté un peu sur scène. Je me suis dit, mais jamais de ma vie je pourrais faire ça, jamais. Et puis je l'ai fait une fois. J'ai fais, ça s'est bien passé, donc tu fais, comment en fait c'est facile. Puis je l'ai fait une deuxième fois, ça s'est re-bien passé, je fais, mais et dire que les gens disent que c'est difficile. Et après je l'ai fait une troisième fois, et la bide de l'espace, et j'ai fait, ah, je veux plus jamais vivre ça de ma vie, jamais, jamais, jamais. Et puis j'ai ça a quand même mis une pause de un an à ce que, pour que je fasse, bon, attends, ça va aller, on va pouvoir. Et je l'ai refait petit à petit. Et puis après, j'ai bien aimé, quoi.
Ouais.
Il y avait le fait que c'était un challenge très fort d'arriver à faire mon propre spectacle. Il y avait le fait que j'aimais bien ça. Mm-hmm. Et il y a le fait que je crois que je m'en sentais, tu vois, il y avait un risque, mais je m'en sentais capable. Tu vois.
Ouais.
C'est pas comme dessiner des maisons d'architectes suédois, tu vois. C'est là où je pourrais pas.
Oui, puis avec les vidéos, t'avais déjà posé les colonnes, non pas d'une maison éco-responsable, mais en tout cas. mais en fait, c'était comme il y avait déjà un personnage, puisque beaucoup d'autodérision, où tu te moques de toi, à chaque fois quand tu danses avec un air sérieux, tu feins une sensualité dans tes poses.
Tout à fait, tout à fait.
Donc comme ça, c'était déjà là. Au final, il y avait plus qu'à prolonger, accentuer.
Tout à fait, et adapter aussi. Alors, mais il y avait un truc tout bête déjà, c'est qu'en fait, j'ai pu faire des salles assez grandes assez vite, puisqu'il y avait des gens qui me suivaient pour les vidéos. Et donc, j'ai pas eu à passer par ces parcours du combattant, du comedy club, dont beaucoup de gens parlent. Je pense que peut-être je le ferai un jour, parce qu'il n'y a pas que par nécessité commerciale qu'on fait. Il y a aussi que, bon, bah attends, faut peut-être tester des trucs.
Ouais.
Voilà, exactement. Moi, j'ai pas fait comme ça. J'ai fait mon spectacle et direct sur scène et avec quand même un petit peu de risque parce qu'il y avait des déchets. Donc, je l'ai ajusté, mais il était déjà complet au début, tu vois.
Et c'est ces trois spectateurs, les trois premiers, qui t'ont conseillé sur donc, ta copine, cette amie du monde et ton copain humoriste qui te disent, voici quelle vidéo ce serait intéressant de développer, voici quels sujets sont encore d'actualité.
Alors il y avait très très peu de vidéos au départ. J'avais un petit sur la petite loge, j'avais mon téléphone portable et un écran 15 pouces et je passais comme ça quelques petits médias. Donc il y avait pas du tout tous ces trucs que j'ai tournés spécifiquement pour le spectacle. Mais oui, t'as des retours comme ça, t'as des gens qui sont autour de toi et qui voient et qui disent, j'ai pas de metteur en scène, tu vois, mais c'est des gens qui te donnent des retours. Et puis aussi, moi j'ai beaucoup fait filmer ce que je fais, et puis tu te regardes, tu te dis, mais attends, là je pensais que c'était chambé, mais en fait ça l'est pas. Et c'est en te regardant toi-même que t'arrives à ajuster. Et peut-être que j'aurais bénéficié de faire des comedy clubs. Je l'ai pas fait comme ça, mais je pense que là le spectacle il se tient.
Ah bah non, voilà, il est super. Et puis c'est vrai que pour ce spectacle là je sais pas si en comedy club ça peut s'extraire, vu le rôle aussi
quand même. Tout ça,
bah ouais. Mais donc t'as pas de metteur en scène ni de co-auteur?
Non. Non, j'ai un régisseur et il y a aussi mon caméraman Adrien qui vient sur la plupart des dates avec moi et qui en fait de fait il est là depuis le tout début et donc il connaît un peu le spectacle par cœur et il me fait des petits retours. Ah tiens, là c'était pas mal, là t'as fait ce truc bien, et donc ça, voilà, c'est un feedback qui m'aide aussi, quoi.
Tu t'imaginais déjà à la petite loge que en quelques clics ça allait être tout complet, qu'il y avait autant de gens qui t'attendaient?
C'est quand même progressif. On a mis en vente les places de la petite loge et ça a été plein très très vite, tu vois.
Bah oui.
Mais bon, en tout et pour tout, il y a 25 places, donc on a fait 30 dates et il y a que 700 personnes en tout et pour tout qui ont vu le spectacle, la petite loge, sur 30 dates. Mais donc ça s'est rempli, oui, je pense, on l'a fait en deux fois, mais en deux fois une heure, tu vois.
Ouais.
Et donc là, tu dis, ah! Il y a l'air d'avoir une petite demande.
Bien sûr.
Puis après, j'ai fait la même chose en Suisse, dans une salle de 150 places où j'ai fait 19 dates et qui se sont remplies aussi très très vite. Et là, tu dis, bon, c'est... Puis après, voilà. Mais il y a un moment où ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est juste que, bah tiens, la limite est un peu plus haut que ce que j'imaginais. Mais si je mettais en vente une tournée des Zéniths, ce serait vide. Donc voilà. Oui, j'ai été un peu étonné. Mais bon, voilà. Enfin, ça reste par rapport à des gens comme d'autres, mais enfin voilà, j'ai une limite aussi, elle est un peu plus haute que ce que je pensais, quoi.
Ouais, elle est plus haute que, c'est quand même, en général les gens qui vendent 700 places d'un coup ne commencent pas à la petite loge.
Oui, voilà,
c'est ça qui est quand même drôle. Ouais. Et qui prouve quand même où t'as ton extrême modestie ou ta naïveté, mais c'est à dire que en fait quand on va jouer dans un théâtre de 25 places, c'est qu'on pense qu'on va réunir 25 personnes.
Oui,
et si on savait qu'il y avait 700 personnes qui d'un coup prendraient leur place, on aurait peut-être ne serait-ce que booké une salle de 100, quoi.
Oui, peut-être, peut-être. Mais en fait, il y avait un truc vraiment plus que, tiens, est-ce que je peux vendre ou pas ? C'était aussi genre, attends, je travaille
ouais,
là.
Ouais, je m'essaye.
Je suis pas hyper fier de ce que je fais, je veux pas trop le, le voir, je veux quand même un peu travailler, me confronter à la scène, etc. Mais je, c'est, je peux faire mieux, tu vois. Et donc, je voulais pas que, il y avait aussi un truc, c'est pas maintenant qu'il faut dire, hey, attends, vas-y, on fait des salles plus grandes.
Les premières phrases, mais je vais pas trop en dire, mais sont très, très accrocheuses, quoi. On s'attend.
C'est même pas des phrases.
C'est juste un mot.
Mais pas n'importe lequel.
Mais ça réveille et ça met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Oh, ok, ouais. Bon, c'est parti.
Est-ce que tu peux mettre mon casque un peu moins fort encore ou pas ou
c'est,
ou...
Mais largement.
Ouais,
ça, Est-ce que là, c'est beaucoup mieux ?
Ouais, là, c'est bien, c'est bien. Puis un petit compresseur, je sens.
Quelle oreille attentive. Ouais. Et est-ce que tout d'un coup, parce que dans un spectacle très pudique, finalement tu mets des choses de toi, donc de ton enfance, c'est ta bar mitzvah ?
Non, c'est pas ma bar mitzvah, c'est juste Hanouka.
Ah ouais, c'est juste un Hanouka.
Ouais. Ouais, ouais.
Et t'as une tête 1990. Hyper sérieuse.
Ouais.
Et ça, est-ce qu'au tout début, tu savais que tu mettrais des choses aussi intimes de ton enfance ou c'est venu au fur et à mesure ?
Non, ça va. En fait, c'est là qu'il y a un petit truc journalistique dans la façon dont je fais les blagues, c'est que j'adore appuyer mes blagues avec des documents, en fait, de dire genre, c'est pas une histoire que je vous raconte, enfin, regardez,
c'est
vrai, c'est le sourcé, il y a le document.
Voilà
c'est,
ma tête.
Voilà ma tête, voilà comment je l'ai dit, je suis pas en train de... Je, vous voyez comme moi que ce que je dis est vrai. Et c'est, en fait... C'est une pente que j'ai naturellement, sans doute par souci journalistique au départ, mais qui du coup crée un peu la blague aussi.
Ouais.
C'est-à-dire genre putain, il a mis un document pour sa blague, il a documenté sa blague.
Oui.
Et en fait, je pense que c'est un truc naturel, mais qui de fait est devenu un
convain.
Truc convain et aussi un peu drôle, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est un peu marrant d'avoir ce truc de voici le document.
Mais oui, c'est vrai, il y a un argumentaire. Et, donc,
et ce document, et bien sûr, comme je suis un taré de vraiment névrotique des archives, je garde tout et tout est bien classé et de mieux en mieux classé en plus.
Wow.
Donc en fait, je connais assez bien ces trucs-là, donc je peux dire, attends, je me souviens de ça, bam, j'ai l'image. Et même de dire, attends, je vais... parce que par exemple, je sais pas, je fais un truc avec François Hollande à un moment, j'ai un document avec François Hollande. Ça m'est déjà arrivé ce truc avec d'autres gens que François Hollande, dans d'autres interviews, mais il se trouve que j'ai pas le document. Et là, je l'ai. Et donc en fait, bah, c'est plutôt François Hollande que je vais prendre plutôt que quelqu'un d'autre de connu que j'ai interviewé parce que je peux montrer le document aussi.
Ah. Ouais. Et les gens s'imaginent que tu es suisse. Mais parce que
plein de gens.
Les gens s'imaginent que suisse et portugais, mais pas français. Et c'est parce que tu as travaillé longtemps à la RTS.
J'ai pas travaillé si longtemps que ça à la RTS. C'est juste que la RTS m'a appelé. Enfin, plutôt deux personnes de la RTS qui s'appellent Vincent Veillon et Vincent Cuchol m'ont appelé en 2020 pendant le premier confinement. M'ont dit hey, ils avaient vu ce que je faisais sur Canal+. Ça dit de faire des vidéos sur la Suisse. Et je fais ok. Et finalement, ces vidéos que j'ai faites sur la Suisse, elles ont eu un retentissement en dehors de la Suisse. Et même aujourd'hui, en France, des gens qui me connaissent principalement pour ces vidéos suisses et qui se disent quelle autre raison peut expliquer le fait qu'il parle de la Suisse à part qu'il est suisse, parce qu'on s'en fout quand même de la Suisse.
Ouais.
Je pense que c'est ça leur raisonnement. Et du coup, ils se disent que je suis suisse alors que non, je suis ultra pas suisse du tout. Vraiment, j'étais allé en Suisse une fois et demie dans ma vie avant de faire toutes ces vidéos sur la Suisse. Tu vois, voilà.
Mais
et
maintenant, tu es très aimé des Suisses.
Oui. Mais en proportion des gens, je pense que je suis plus connu en Suisse, pas en nombre, parce qu'ils sont très peu, mais en proportion des gens.
Comme il n'y a pas beaucoup de gens connus en Suisse, quand tu es connu en Suisse, tu es plus une star pour les Suisses.
Ouais. Mais ça, mais ils sont 2 millions. Hein. C'est pas rien intramuros. C'est très,
très
peu. Mais effectivement, après, quand tu te promènes dans les rues de Lausanne, t'as l'impression d'être Rihanna, des fois. Quoi. Alors que non, vraiment pas.
Alors que t'as grandi dans le 12e.
J'ai pas grandi dans le 12e. Je suis né à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement. Et ensuite, j'ai grandi pas loin d'ici, à côté de la place de Clichy. Entre le métro Rome et le métro Place de Clichy.
Dans le 9e.
Dans le 8e, techniquement. Mais c'est pas... Parce que quand on dit 8e, on s'imagine l'Élysée tout de suite. C'est pas non plus
le
si
8e
chic
cool.
Que ça.
Le 8e cool.
Le 8e
cool, proche du 9e.
Proche du 9e, proche du 17e, pas si loin du 18e.
Finalement.
Exactement.
Ben oui, et donc ton père était photographe.
Mon père était franco-portugais, photographe. Et aussi, il distribuait des films au Portugal.
Distributeur, ok.
Distributeur de films. C'est plus d'ailleurs comme ça qu'il gagnait de l'argent qu'en tant que photographe.
D'accord.
Même s'il a été aussi, vers la fin de sa vie, c'était un photographe quand même un petit peu important au Portugal, toujours. Il y a des gens qui l'appellent le quartier bresson portugais.
Ah ouais, quand même.
Ouais, quand même. Mais c'est assez vrai, mais ça, t'as pas dit grand-chose en disant ça. C'est comme dire, ouais, c'est trompeur, quoi. C'est comme dire, oui, c'est l'équivalent de Normal Sup au Bénin. Tu vois, bon bah, c'est pas vraiment Normal Sup, du coup.
C'est la Rihanna suisse.
Voilà, c'est la Rihanna suisse. C'est ça. C'est un petit peu le Alain Passard belge. Bah, c'est okay. Pas tout à fait Alain Passard non plus, tu vois. Et voilà. Et donc, mais oui, c'était un photographe qui a photographié de façon, tu vois, documentaire, humaniste, le Portugal dans les années 50 sous la dictature. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça avec talent. Et donc voilà. Mais sinon, il distribuait des films.
Donc très à gauche ?
Oui, très à gauche et surtout très à gauche dans le Portugal de 1970, parce que Portugal, Salazar, dictature, donc dictature vraiment fascisante, même si, alors, pas un peu plus soft, c'est peut-être pour ça qu'elle est moins connue, c'est un peu plus soft quand même que Franco, que Hitler, que Mussolini, moins de morts, beaucoup moins de morts, de la torture, mais peu de morts issus de cette torture, quelques-uns quand même. donc du coup, voilà, un dictateur méchant. Alors en revanche, tu vois, pas de liberté de la presse, emprisonnement des opposants politiques, tout ça. Mais donc vraiment, évidemment, mon père très très opposé à tout ça. Il donnait de l'argent au Parti communiste, mais en même temps, il avait une entreprise. Donc il y avait une sorte de petit truc un peu genre, parce que ce que voulaient faire les communistes, c'est quand même mettre en commun tout,
ouais.
Donc, y compris l'entreprise de mon papa. Et ça, il préférait
ça, c'était
pas.
Sa limite.
Voilà, il préférait pas qu'on mette son entreprise.
Mais il distribuait quel type de films ?
Il distribuait un peu tout type de films, en fait. Les distributeurs, c'est un métier pas hyper connu, distributeur, mais en gros, c'est tu achètes les droits d'un film, tu loues des endroits, des salles de cinéma, et tu exploites, tu passes ces films, les gens ils payent leurs billets, et tu espères que ils vont acheter tellement de billets que tu vas gagner plus que ce que tu as payé les droits. Voilà. Et il met toutes sortes de films, plein de films de la Fox, notamment.
Ok.
Et il l'a fait. Alors après, ça existe toujours. Il y a toujours des cinémas avec mon nom au Portugal.
Oh.
Alors ils sont discrets dans des petites villes du nord, etc. Mais il y a toujours des films que je te lopes. Films que je te lopes. Tu peux aller voir des films. Et alors
ouais.
surtout des Portugais d'un certain âge.
Ouais.
Et pour eux, ils allaient, bien sûr, on va chez Castelo López, comme on va chez
Gaumont-Pâté.
Gaumont-Pâté. Alors vraiment, encore une fois, beaucoup plus petite échelle. C'est un peu le Gaumont
pâté,
portugais.
Ouais.
C'est le pâté du Tage. Et donc ça existe encore. Et donc c'était tout type de film. Je me souviens, un des derniers films où il avait vraiment encore toute son entreprise, etc., c'était Titanic.
Ah ouais, quand même.
Mais oui.
Ah oui,
alors
oui.
Il y avait aussi des petits trucs d'auteur et des petits machins, mais...
Pas que. Ouais.
Et à la fin des années 90, voilà un truc où ils ont gagné de l'argent, quoi.
Ah ouais, ouais,
parce
ouais.
Parce que beaucoup de gens sont allés voir Titanic.
D'où l'appartement dans le 8e.
Alors, malheureusement, loué. Donc, non. c'est un appartement loué. Mes parents n'ont jamais
acheté
d'appartement. Ils ont loué pendant très longtemps un appartement beaucoup mieux que ce qu'ils auraient pu acheter, en fait.
Ouais,
et avec
ouais.
des loyers relativement bas, mais ouais, bel appartement. Mais malheureusement...
Tu n'en as pas hérité.
Je n'ai pas hérité. Et voilà. Mais j'aimais bien le faire croire à une époque, alors que non. Mais non, en revanche, une jolie maison au Portugal.
Ah, ça, c'est trop bien.
Ouais.
Achetez à vous.
À me faites construire. Tronstruire.
Ah,
ouais,
tronstruire.
Ouais. Tronstruire, voilà. Non, faites construire. Et ça, elle est toujours dans ma famille.
Ah, ça, c'est cool.
Ouais,
où ça, au Portugal ?
À Alcobendas. Alcobendas, c'est tous ces noms de villes, enfin tous les mots et les noms de villes et les noms d'endroits qui commencent par Al en portugais,
hey.
C'est des mots qui viennent de l'arabe,
hey,
parce que le Portugal a été arabe pendant
Maure.
Un bon moment, Maure exactement, jusqu'à la fin du 15e siècle, et donc il y a plein de mots même qui sont des copies conformes du mot arabe, comme tailleur par exemple, ça se dit Al-Fayat en portugais, c'est Al-Khayat en arabe, et là Alcobendas, c'est pas très loin, c'est dans un endroit assez bien, hein, c'est à 40 km de Lisbonne, c'est à côté d'un endroit que les gens connaissent souvent pas si mal, ce qui est Cascais.
Ah oui, oui, oui.
Cascais, sur les bords
de mer. Où il y a du surf.
Il y a du surf, sa mère.
Ah, voilà. Ça, c'est cool.
Ouais, non, c'est bien.
Ah ouais, ouais, ça, c'est chouette.
Et j'y vais toujours.
Alcobendas.
Alcobendas.
Bah, si tu sais pas que c'est au Portugal, ça pourrait être en une région flamande. Tu vois ce truc, Al-Khabidesh ?
Al-Khabidesh, ah oui, ah, oui, oui, c'est vrai. Mais si tu... Ouais, Al-Khabidesh, tu vois. Tu vois, là, c'est plus ça. C'est plus comme ça. Je pense que c'est plus de là que ça vient.
Oui, c'est vrai. Et là, on boucle avec notre fascination pour les reliques, en fait, dès qu'on parle d'histoire.
Exact, exact. Et donc, toi, passion pour les reliques.
Passion énorme pour les reliques.
T'en as toi-même ou pas ?
Alors, j'en ai pas à la maison. Est-ce que j'aurais des objets petite, peut-être, parce que c'est quand même avoir un espèce de truc mort. Bah, je pense que tous les enfants ont des reliques de leurs dents de lait.
C'est tout à fait des reliques. C'est tout à fait des reliques, tout à fait.
C'est quand même quelque chose que tu conserves et qui se met un peu à vieillir et à puer dans sa boîte et puis que tu finis par jeter.
Moi, j'ai mes cheveux comme ça. Parce que j'avais les cheveux longs et je les ai coupés. Et je les ai gardés dans une petite boîte vraiment sordide. Ah non, je les ai toujours.
Tu les as gardés chez toi.
Ouais, c'est sordide. Mais des fois, je les montre aux gens. T'as vu, c'est mes cheveux d'avant.
Ah, wow.
Puis après, ils s'en font.
Bah ouais, non mais je comprends. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les emballages plutôt que en fait
le reliquaire
qui est souvent très beau. C'est ça. En fait, je pense que la fascination, elle vient de le Moyen Âge en 5e et ensuite. En fait, je trouve qu'il y a un côté très Tim Burton. Je trouve ça rigolo autant. Tu vois, j'ai pas un énorme héritage de culture chrétienne et c'est bon parce que je suis fauche même si je crois pas en Dieu, mais résultat. Je pense que je suis la juive la plus fascinée par les reliques chrétiennes. Mais c'est un truc où c'est tellement beau, parfois, ce bout de doigt avec un ongle jaune.
Ouais.
Je pense qu'il y a un côté rassurant de l'enfance, parce que c'est comme tout un monde miniature, en fait, parce que c'est que des petits châteaux, petites boîtes.
Ouais, en forme de
contenant avec des seaux. Et je pense qu'il y a un truc du secret. Et à Sienne, quand tu vas, il y a un musée qui est carrément souterrain. Et c'est des tunnels et des tunnels et des tunnels de reliques, quoi.
Oui, oui.
Et ce qui est marrant, c'est ce commerce des reliques et de fait de se demander, mais est-ce que c'était vraiment un saint ou est-ce que c'était un pauvre gars ou qui est-ce qui a pâti pour...
Et qui c'est qui a dit que c'était vraiment un morceau de machin ? Parce qu'il y a des fois, tu sais que c'est pas vrai, quoi.
Non.
Je crois qu'il y a 36 clous de la Sainte Croix, par exemple, qui circulent.
C'est ça, il y a beaucoup de fakes.
Alors que, a priori, il y en avait 3 ou 4.
Ouais.
Donc, il y en a nécessairement déjà 32 qui sont pas vrais. Et après le truc c'est que il y a des choses qui sont des faux, mais des faux très anciens.
Ça en jette quand même de toute manière.
La couronne d'épines qu'on a à Paris, elle est quand même là depuis Philippe Auguste. Ça fait quand même, c'est Philippe Auguste ou pas? Je sais plus.
J'ai dit oui, mais si tu veux, je vérifierai au moment
J'ai un petit doute sur le fait que c'est Philippe Auguste. Enfin, ça fait genre 800 ans.
Ouais.
Même si c'est un faux, bon, ça fait quand même déjà 800 ans.
Ouais, donc, voilà, c'est déjà bien.
Elle n'a plus du tout d'épines d'ailleurs. C'est très triste. C'est juste un petit.
Ah.
Un petit. Parce que oui, c'est tombé. Enfin, qui disent que c'est tombé. C'est une sorte de. Enfin, c'est pas ouf, quoi.
Ouais, mais peut-être que c'est justement relié au judaïsme, le fait de pas avoir le droit d'avoir des objets, parce que c'est donc t'as pas le droit de symboliser, de signifier Dieu. Il faut au contraire, il faut casser les reliques.
Ouais.
Les reliques sont interdites.
Ouais.
Enfin, pas les reliques, les idoles.
Les idoles, oui, oui.
Et donc, je pense que résultat, il y a un truc, toute cette constellation d'objets plus beaux les uns que les autres.
C'est toujours un risque pour les gens, ça s'est vu dans plein de religions, ça c'est un risque, en fait, t'aimes l'objet plus que ce qu'il est censé représenter, et ça peut t'écarter de ton amour de Dieu et de ton devoir envers Dieu. Et il y a plein de religions que, le protestantisme, je crois que c'est
très la sobriété.
Le truc ça, et on arrête avec ces conneries de, non, attends, c'est un rapport avec toi, arrête de prendre des intermédiaires et de, il y a un petit morceau de saint dans ma cuisine, non. C'est toi et Dieu. Et voilà.
Ouais, mais moi qui suis un peu bling, j'avoue que tout ce qui est dorure catholique.
Mais t'es allé à Aix-la-Chapelle ou pas ?
À Aix-la-Chapelle ?
Aix-la-Chapelle, c'était la capitale de Charlemagne. Et genre, il y a un musée de Charlemagne. Et Charlemagne, il a été vraiment découpé en fucking petits morceaux. Et chaque petit morceau a un reliquaire de ouf malade en or.
Non.
Avec sa tête dedans et un autre avec son bras. Et il y a la châsse de Charlemagne qui est une espèce de petite boîte comme ça où il y a vraiment tout ce qui n'a pas été découpé de Charlemagne et dans cette chasse. Et tout ça est en or, machin. Et voilà. Alors sinon, après, Aix-la-Chapelle en soi, à Aachen, c'est bon.
Rien à...
Mais c'est pas très loin. Tu peux y aller en Thalys.
Je pense que j'irai.
Va en Thalys à Aachen, te
recueillir
sur les morceaux de Charlemagne.
Bah ouais, non, c'est vrai. Est-ce que toi, t'étais triste quand Notre-Dame a brûlé?
Oui, j'étais triste. Moi, en fait, quand il y a un truc d'il y a très longtemps qui arrête d'exister, ça me... Même les... Tu te souviens... Ah non, toi, t'es peut-être trop jeune pour ça, mais les talibans qui ont fait sauter le grand...
Les taureaux ailés,
c'était un Bouddha. Un Bouddha du... mais genre du 6e ou 7e siècle. Mmh. Et ils l'ont juste explosé alors qu'il avait tenu 1300 ans. Ou plus que ça encore. Je sais même plus de... Et genre, vraiment, ça me faisait... Alors que, vraiment, je connaissais pas ce Bouddha avant qu'il le fasse péter, tu vois. Donc, ça avait pas beaucoup de place dans mon existence. Et machin. Ce truc de la forêt et de la charpente de Notre-Dame, la vérité, c'est que j'en ai appris... J'ai appris que cette charpente datait du 13e siècle au moment où elle a brûlé. Donc, mais ça m'a fait de la peine,
Moi aussi,
ça m'a fait
triste.
De la peine. J'aurais été vraiment triste que ça se soit complètement cassé.
Mais oui, mais tout à fait. Non, je t'en prie, vas-y.
Il paraît qu'il y a un espèce de mini scandale là-dessus d'ailleurs, parce que Macron, il a dit on va reconstruire dans 5 ans,
oui,
et que les gens qui sont architectes de ça se disent mais attends, tu veux reconstruire à l'identique, et pour ça il faut des chaînes et ce bois que tu veux utiliser. En fait, si on veut qu'il ne bouge pas et que la structure soit comme elle était avant, il faut le laisser reposer pendant 20 ans. C'est ce qui probablement a été fait avec les chaînes originaux. Donc en fait, tu peux pas faire ce que tu dis. Et je crois qu'il y a même un mec qui a...
Encore un mensonge.
Mais il y a un mec qui a démissionné de l'affaire des architectes de Notre-Dame parce qu'il dit...
Dégoûté.
Je peux pas faire ce qu'on me demande, on va droit au mur. Voilà.
Incroyable.
Faudrait vérifier tout ça avant de...
Mais ça donne envie. Moi, j'ai eu plein de théories du complot, mais c'est vrai sur ce de Notre-Dame qui brûle. Mais je pense qu'au fond, c'est juste un gars qui a balancé sa cigarette. Mais j'aurais eu besoin d'un procès.
Un coupable, c'est lui. C'est Jean-Michel qui a jeté sa cigarette.
J'avais besoin d'un coupable, je sais pas, de quelqu'un qui... Non, mais oui, non, si, c'était... Je trouve que c'était dur, quoi, de pas...
De pas avoir quelqu'un qui... Ouais, je suis d'accord.
Ouais, tu vois, ou même un coupable auquel on pardonne, mais qui s'excuse. Mais t'imagines, tu vois. Moi, je suis prête à lui pardonner, mais qu'il le dise, là, j'ai merdé, tu vois. Je trouve que c'est très, très notre époque et très vraiment ce qu'on essaye de changer en termes de patriarcat et tu vois de pas la vulnérabilité, dire pardon, tu vois, c'est très chrétien de dire pardon. Bah, si tu mets en feu Notre-Dame, dis pardon. Mais là, c'est le moment de dire pardon.
Mais ouais, mais le truc, c'est comme souvent ces trucs là c'est en fait c'est une petite chaîne de choses, et que t'enlèves un maillon de la chaîne, il se passe rien. Et en fait, parce que lui a fait ça, puis lui a fait ça, puis lui est pas monté, puis lui a acheté sa cigarette,
puis le machin,
puis la compagnie. Et en fait, il y a 13 trucs comme ça. Et souvent les catastrophes dans ce genre là c'est juste putain, il a vraiment fallu que les astres s'alignent avec un étron pour que ça marche, enfin pour que ça...
Tu sais que c'était la sortie ce soir-là du dernier épisode de Game of Thrones. Donc résultat, moi j'ai cru qu'au début, je me suis dit mais attends, c'est une pub ou...
C'est une opération de pub.
On va avoir Daenerys sur son dragon, tu vois. Mais parce que là, pour alignement d'étoiles, mais j'ai remarqué que tu as une fascination quand même pour l'histoire, et moi l'un de tes small talk qui m'a le plus touché, c'est Stéphane Bern.
Ouais.
Ah ouais.
Oui, Stéphane Bern, c'est quelqu'un de très doux, très gentil, qui raconte volontiers ses trucs, qui se fout de sa propre gueule, qui est vraiment voilà. Après
Tu le connaissais, ça
a un petit peu aidé que je le vois genre 3 fois par semaine, toutes les semaines de ma vie pendant 3 ans. Ça a peut-être fait que le courant est peut-être un peu passé un peu plus.
Mais c'est vrai qu'il apparaît très sympa. Déjà, je savais pas qu'il avait des origines juives, et puis en plus, je savais pas qu'il était si mauvais élève. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement touchant. C'est ce côté vilain petit canard que j'imaginais pas du tout. Je le voyais vraiment en premier de la classe, et en fait, le fait qu'il soit si nul à l'école, si jaloux de son frère, enfin plein de choses très touchantes chez Stéphane Bern.
Et en plus, oui, avec ce frère qui cartonne, qui est politique. Technicien, le bac tout de suite, le
et lui nul.
Et lui nul. Alors il y a des niveaux dans la nullité. Hein. Il a pas été réorienté en troisième parce qu'il avait foutu le feu au collège. mais oui, quand même moins bien que son frère et moins bien que ce que ses parents auraient voulu, je crois.
Et toi, ta fascination de l'histoire, ça a été à son contact en bossant la radio avec lui ou pas même avant?
Mais je te dis, je suis obsédé par le temps qui passe depuis que j'ai 4 ans. Quoi. Ça me terrorise. Je fais des crises d'angoisse extrêmement tôt à cause de ça. Je thésaurisais, je gardais des ordures quand j'étais petit parce que si je jette l'ordure, ça veut dire que en fait le moment auquel cette ordure est liée, ça veut dire qu'il est fini. Or je veux qu'il se continue parce que sinon je vais mourir. Enfin vraiment, c'était des trucs très très... Et donc en fait, toute mon existence, alors je me suis un tout petit peu calmé sur un certain nombre de choses, mais c'est dans la droite ligne de ça, quoi. Je garde tout.
Les archives,
je garde mes choses.
Aujourd'hui, tu jettes tes détritus, les pourritures, les fruits et légumes ?
Ouais. Non. Mais si.
Compost.
Pas compost. À la campagne, compost.
Oui.
Mais à Paris, pas compost. À Paris, pas compost. Non. Bien sûr, je me calme de plus en plus avec ces trucs-là. Je pense que je me dénévrotise un peu. Mais ouais. Je garde. Il y a un truc que je fais toujours, c'est quand il y a un changement de packaging sur un produit que j'utilise beaucoup, l'Aquafresh 3, par exemple, ou l'Axe Marine, ou les pâtes Barilla. Et ben, je garde un exemplaire. Du packaging d'avant. J'ai comme ça plusieurs versions du même paquet de coquillettes Barilla. Tu vois, voilà. Il est taré.
Non, je suis comme toi. Alors là, mais je suis vraiment. Alors là, non, je me demande, tu penses que c'est nostalgique ou anxieux ?
C'est la peur de l'oubli, mais que du coup c'est la peur de la mort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement lié. Enfin, si les choses sont oubliées, c'est qu'elles n'ont pas existé, et que si elles n'existent pas, c'est à quoi bon vivre. Mais enfin, je te dis ça parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait que je garde les choses. Et c'est bien sûr ça la fascination. Je voulais en venir là, la fascination pour l'histoire aussi, quoi.
Ouais.
J'ai fait trop d'histoire. J'ai fait un DEA d'histoire. J'ai fait des mémoires de 200 pages. C'est le truc pour ne pas être prof d'histoire. Et je pense que c'était une erreur de faire des études d'histoire.
C'était quoi, sur quoi le DEA ?
Alors, j'ai fait une maîtrise d'abord, maîtrise qui n'existe plus. C'était 4 années après le bac, c'était maîtrise d'histoire. Je faisais un premier mémoire et ensuite un deuxième en DEA, diplôme d'études approfondies, c'est-à-dire c'est l'équivalent du master 2 recherche aujourd'hui. La maîtrise, j'ai passé un an de ma vie à faire le portrait d'un notable bayonnais de la fin du XVIIIe siècle.
Qui s'appelait
Pierre-Léon Basterèche et qui était un des premiers régisseurs de la Banque de France. Plus c'était de l'histoire financière, un peu de machin. Puis en plus, tout ce qu'il y avait vraiment à savoir sur ce monsieur, on le savait déjà. J'ai passé mon temps dans des archives, dans les Pyrénées-Atlantiques, à recopier son inventaire après décès aux Archives nationales. Alors tout ça était... J'étais fasciné, genre, c'est vieux, c'était il y a longtemps, c'est machin, mais je n'ai rien apporté vraiment à la connaissance historique. Et ensuite, le DEA était un peu plus intéressant parce que c'était sur la photographie amateur en France depuis 1965. Donc c'était de l'histoire hyper récente. Et c'était de l'histoire, je faisais genre, quelle est l'esthétique des photographies amateurs dans les 30 Glorieuses. C'était vraiment genre l'histoire des techniques. Donc je disais, qui c'est qui a importé le Polaroid en France ? Ah bah c'est Michel, voilà. Et tiens, combien on a été vendu, combien on a vendu de Polaroid ? Ah tiens, et c'est à quel moment est-ce que tel appareil est arrivé à tel moment ? Quand est-ce qu'on est passé au numérique ? Tout ça, ces trucs-là. Donc c'était de l'histoire de l'industrie, en fait, en France, sur la photographie amateur depuis 1965.
T'as des frères et sœurs ?
J'ai deux sœurs et j'avais un frère, mais qui est décédé. Mais j'ai une vraie sœur, si tu veux, j'ai toujours une autre sœur, et j'avais un frère qui était du premier mariage de mon père, et mon père m'a eu très 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 vieux, m'a eu à 56 ans, mais il a eu par ailleurs des enfants jeunes. Donc en fait, ses frères et sœurs du premier mariage, ils ont plus de 70 ans. Ils sont nés dans les années 50. Ils pourraient être mes parents complètement, tu vois.
Et ils font aussi des métiers artistiques ou liés à la photo ?
Alors ma sœur, pas du tout. Ma sœur, elle est femme au foyer. Mon autre sœur, non plus. Mon frère, en revanche, lui, il était musicien, il était percussionniste. Il a passé toute sa vie à être musicien et avec beaucoup de talent, quoi.
Et ta mère aussi, elle était là-dedans ?
Ma mère était pas artiste, non, même si elle avait un sens, elle avait un goût, elle était esthète, un peu. Mais elle n'était pas artiste elle-même, non. Non, non.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'était vraiment je l'ai jamais dit comme ça, mais en fait les artistes, c'est les garçons, quoi, dans la famille. C'est mon père, mon frère et moi, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Mais non, moi, quand tu me décris ça sur la mort, je te vois pas du tout taré sur les emballages ou les trucs qui disparaissent. Je pense que je suis un petit peu pareil. Mais moi, je sais pas si c'est une peur de la mort que juste un amour des habitudes.
Oui.
C'est...
Je traiterai ça aussi. Tu vas deux fois dans un café, c'est bon. Tu vas tout le temps dans ce café parce que ça te rassure.
Ben, voilà, je suis un peu obsessionnelle. Et donc, c'est un peu chiant pour les gens autour. Parce que si en vacances on trouve un resto et que je le trouve bon, je vais dire bah alors on a qu'à y aller tous les soirs.
Complètement.
Et que les gens se podent. Ou alors on fait d'autres découvertes sur d'autres restos. Et je dis mais on ne trouvera pas dans cette ville meilleure. Ouais. C'est celui-ci. Oui. Et puis donc ça peut être chiant.
Et apprendre toujours le même plat aussi au restaurant.
Oui.
J'essaie de me faire violence parce que c'est pas. Je pense que c'est mieux de pas être comme ça. Je pense que c'est mieux parce qu'il
faut on peut varier risques. Autour de trois plats.
Mais oui, prends un peu de risque aussi. C'est genre ok, tu vas foirer, mais tu vas étendre tes horizons.
Oui, puis surtout résultat pour nous, la vie d'artiste est difficile avec ces petites névroses parce que comment tu fais toi en tournée quand t'arrives dans un théâtre où t'as pas tes habitudes.
Je suis un mon coproducteur, il m'en veut beaucoup, mais moi j'aime la Volvic et donc je demande à ce qu'il y ait de la Volvic et ça me rassure qu'il y a de la Volvic.
Je comprends.
Et lui, il me dit no plastique, connard. Ah. Et je fais vas-y, no plastique, sauf ça. Sauf de...
J'adore, t'es le producteur le plus à gauche et féministe de l'histoire des producteurs.
Ah non, oui, parce que c'est un coproducteur, il s'appelle Junzi.
J'adore.
Et c'est des producteurs de musique, c'est eux qui produisent Drag Race.
Ok.
Donc oui, ils sont très, très, ouais.
C'est la première fois qu'un producteur après un spectacle vient me voir en me disant j'adore les mecs que je veux qu'elle. Et tout, je vois, trop bien.
Ah, mais oui, parce que tu l'as connu.
Ben, non, mais on s'est rencontrés quand je suis venue voir ton spectacle. Il est venu me voir après. Je te dis, déconstruit ce producteur et tout.
Ah, ultra déconstruit.
Ah ouais.
Ah ouais.
Donc il te shame sur ton utilisation du plastique.
Il me shame. Ouais. Il shame beaucoup. Et il habite en Bretagne, dans un endroit avec des chiottes sèches, tu sais. Et, et il fait sa cuisine avec du feu de bois uniquement.
Incroyable.
Il est
formidable.
Il est à la pointe.
T'aide à faire du profit quand même aussi.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire et du coup il donne tout ton argent, il donne machin. Non, il m'aide à faire du profit, il en fait lui-même.
C'est donc, génial.
Sur ce point-là, il a pas quand même complètement renoncé au capitalisme.
Voilà. Non, mais parce que c'est vrai que c'est dur. Donc c'est bien d'avoir ses habitudes, mais je sais pas comment toi t'as vécu ces cigales. Parfois, ce qui peut être un peu compliqué.
C'était le Trianon.
Mais quand je suis venue te voir,
c'était au Trianon.
Tu fais bien de me corriger.
C'est juste à côté. Et ça se ressemble, mais c'était le Trianon. Ouais.
T'as raison, Trianon. Ouais. Et parce que non, c'était pas un one shot, il y en avait trois d'affilée.
Deux. Ouais.
Et t'as eu le temps de prendre tes habitudes dans la salle?
Bah oui, mais d'ailleurs, toi, t'es venu à la première.
Oui.
Et genre, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que c'était une des pires dates de toute ma tournée de là. Et vraiment, alors les gens dans la salle qui n'avaient pas vu le spectacle, ils ont fait je m'en suis pas du tout rendu compte, mais tous les gens de mon équipe ont fait c'était froid ce soir, quoi. Et le lendemain, c'était trois fois mieux, quoi. Tu voulais dire quelque chose, attends.
Non.
Non,
je veux dire, est-ce que justement, deux dates, tu as eu le temps de prendre tes marques et d'avoir du plaisir.
Mais complètement. Complètement. Ouais. Et c'est important pour Paris. Ça, à chaque fois que j'ai fait des séries de dates à Paris, la première, je sais pas, il y a un truc, c'est moins bien. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça à l'Européen, ça m'a fait ça à la Scala, ça m'a fait ça au Trianon. Et là, je vais faire les Folies Bergères et il y en a qu'une. Donc je me dis, c'est bon, j'ai mes marques. Ah, mais c'est fini.
Bon, si tu vas tout kiffer ou tout bien répéter ou mettre en place l'après-midi.
Ben,
ouais.
Il y a un truc tout con qui m'a. Mais je pense que c'est parce que je suis pas encore assez pro et assez. C'est rodé, mais il y a un truc tout con au Trianon qui m'a niqué ma race, quoi. Il y avait la porte au fond à droite, était ouverte, et donc ils savent pas ça, mais quand t'es sur scène, tu vois rien. En gros, tu vois vaguement un peu le premier rang, et ensuite c'est tout noir, et t'as beau avoir, je sais pas, 500, 1000, 2000 personnes, tu vois rien. Et la seule, mais là, je voyais donc tout noir, sauf une porte ouverte avec un vigile qui faisait les 100 pas en regardant sa montre. Et en fait, tu vois que ça, donc il n'y a que ça, ton regard, il va que là-dessus. Ouais. Et c'est ça qui est en train de te dire. Tu te dis, putain, en fait, c'est ça mon spectacle. Et alors, depuis, ça m'est arrivé deux autres fois. Et j'arrête. Et je dis, genre, simplement, excusez-moi, petit truc technique, est-ce qu'on peut fermer la porte
toutes les portes.
Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pas osé. Mais ça a aggravé tout ça. Ça m'a complètement déstabilisé, en fait. Et je pense qu'une partie, au moins, du fait que j'ai pas kiffé cette date, c'est ce truc tout con, quoi. Voilà. Ouais. Je sais pas si t'as des trucs comme ça, toi aussi.
Si, tout le temps. C'est pour ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Mais moi, j'ai eu une exceptionnelle au théâtre de l'Atelier, là. Et j'ai beaucoup de culpabilité parce que j'aurais envie de dire que c'était génial. Je pense que je m'étais mis beaucoup de pression parce que c'était la plus grande salle que je faisais à Paris et que j'avais envie d'aimer, d'être heureuse. Et en même temps, la difficulté du one-shot, c'est que j'ai pas eu le temps de m'habituer aux lumières et que j'ai eu une metteur en scène. Et au milieu du spectacle, j'étais là, Adrienne, la lumière, est-ce que c'est normal? Et en fait, mais parce qu'il y a eu tout a bien commencé. Et en fait, à un moment, mon micro s'est éteint.
Ouais.
Et ça m'a un peu fait vriller parce qu'ensuite, ils m'ont donné un spare.
Toi, t'as un micro à la main.
J'ai un micro à la main.
Ouais.
Et il s'éteint, j'essaie de le rallumer, il se rallume pas.
Ouais.
Et en fait, c'est pas grave, tu vois, il faut rester cool. Ouais, sauf que moi, impossibilité. Donc, on m'en donne un autre et le nouveau micro n'était pas réglé, donc je n'avais pas de retour. Et donc, en fait, je passais la représentation et les gens me prenaient pour une folle parce que j'étais là, le micro ne va pas, vous m'entendez pas. Alors, et les gens disaient, si. Et je voyais dans leurs yeux, genre, l'inquiétude et la peine et tu vois, et donc il y avait un truc. Et en fait, c'était. Et le pire du pire, c'est que. Enfin, bon, bref, je crois que certains ont sous-entendu que c'était moi qui avais éteint le micro. Et alors là, s'il y a bien un truc, c'est que je n'ai pas éteint le micro.
Mais genre, c'est un truc de ouf que j'ai remarqué aussi quand il y a un problème technique. Les gens disent, c'était fait exprès.
Mais non.
Mais tu crois que j'ai kiffé, là, les trois minutes où j'étais là, machin. Ouais. C'est exactement ça, quoi. J'ai éteint le micro. Et en plus, pour me rendre intéressante, pour avoir un truc, machin. J'imagine qu'il y a un moment, je sais pas, tu peux dealer avec ces trucs là, mais surtout si c'est arrivé trois fois, après tu dis bon attends, il y a pas le machin, mais parce que tu dis, en fait je vois tout à fait ce que tu veux dire, ce truc de genre attends, est-ce qu'ils m'entendent bien,
voilà.
Avant que le micro s'éteigne, c'était une date nickel ou pas?
Avant, en vrai, ça allait parce qu'il y avait un moment au début où je traverse la salle, mais où c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait plus de monde et j'avais perdu mon chausson, mais j'en avais réussi à en jouer, je m'étais mariée. En fait, c'était un accident prévu.
Ouais, d'accord.
Donc en fait, quand c'est des accidents prévus ou sur lesquels je me dis il y aura peut-être une difficulté là, je l'ai anticipé.
Ouais.
Donc en fait, je suis prête. C'est comme, je sais, à un moment, je vais faire des interactions. Si ça bide ou si c'est gênant ou s'il y a une blague qui passe pas, c'est un risque calculé.
Oui.
Et ça, le micro qui s'éteint, c'était pas prévu. Et donc dans ma tête, il y a un. Mais parce que c'est qu'il faut que tout soit réglé pour pouvoir être le plus libre.
Et il y a ce truc que t'as dit de genre, tu sais, quand tu dis plusieurs fois, est-ce que vous m'entendez le son? Ça m'est arrivé des fois, ou surtout au tout début, quand je jouais les 19 premières représentations en Suisse, où genre il y a un truc qui déconne et tu sais, où il y a des gens qui parlent. T'as déjà eu des gens qui parlent?
Oh, bah oui.
Et genre, en fait, moi, maintenant, je crois que j'arrive à tout petit peu à le gérer. Puis les salles sont plus grandes, ouais. Je les entends moins, mais là, c'était 150 places et tu les entends parler. Et moi, ça me rendait ouf. Et donc, tu sais, tu veux les engueuler.
Ouais.
Mais le truc, c'est qu'il y a que toi qui te rends compte que ces gens, ils sont en train de parler. Donc, tout à coup, si tu leur dis, excusez-moi, vous pouvez arrêter de parler, il y a tout le monde qui fait, qui se tend. Et pour sortir de ce trou que t'as creusé toi-même, c'est chiant. Et genre, j'ai pas su. Il y a une fois où, genre, vraiment, j'ai un peu pourri l'ambiance. Et j'ai été le premier à en pâtir d'avoir pourri l'ambiance, tu vois. Et je pense que c'était pas du tout aussi grave ce que t'as dit là, mais je vois trop ce truc sur scène où tu dis putain, t'es en train de t'auto-nuire.
Ouais.
Parce que t'en peux plus. Ouais, voilà. Bon.
Ouais, si, c'est des moments de gênance où on met une sale ambiance et je devrais apprendre à plus les. À l'atelier, à un moment, je m'étais dit, ok, il y a ce moment où je vais faire juste des blagues pour la soirée qui seront filmées. Et puis je me suis dit, ah tiens, je vais faire une blague sur le fait de dire que avant de faire de l'humour, j'allais voir des spectacles dans le public. Sur des migrants à poil transsexuels, des spectacles de 10 heures. Et je pensais que j'aurais un gros rire sur migrants à poil transsexuels. Et j'ai senti les gens gênés. Et au lieu de me dire, c'est pas grave, c'est un risque, après tout, tu ne l'as jamais fait, cette blague, je me suis énervée contre eux. J'ai fait, si, migrants à poil transsexuels, c'est drôle, d'accord? C'est drôle. Tu vois, et les gens étaient encore plus gênés.
Ah,
et j'ai pas réussi à lâcher ce moment. Tu vois.
Ouais.
Mais ouais, non, c'est dur.
Ouais.
Comment tu fais, toi, pour tes interviews dans Small Talk, pour que d'un coup, les gens te disent un truc qu'ils n'ont jamais dit ailleurs?
Je sais pas. C'est rare que je puisse dire s'ils l'ont dit ailleurs ou pas. Tu vois, il y a quelques fois où ils le disent eux-mêmes, ils vous disent eux-mêmes, ah ben ça, je l'ai jamais dit ailleurs. Je sais pas en fait. C'est peut-être que je pose des questions qui qui m'intéresse, mais dont on se dit pas que la réponse puisse être intéressante, tu vois. Ça peut m'arriver, j'ai pas l'impression d'avoir de technique particulière. Ça aide, je pense, un tout petit peu que le principe ce soit de ne pas de parler de tout pourquoi les gens sont connus. Donc, effectivement, tu vas creuser, parce que ça dure une heure quand même, donc tu vas creuser des choses qui sont pas tout à fait habituelles de creuser. Mais après, je pense qu'il y en a où il n'y a rien d'inédit. Hein. Alors peut-être ils ont dit ça dans une interview il y a longtemps, machin. Je sais pas si, mais effectivement, des fois je suis surpris. Je sais pas si Big Flo et Oli avaient beaucoup parlé du fait qu'ils trouvaient que leur blaze était nul à chier.
Ouais, c'est drôle ce moment. C'est génial. J'aime beaucoup. Ouais.
Et on sent qu'ils ont réfléchi à la question, qu'ils ont des trucs à dire. C'est pourri. Florian, l'italien.
C'est très drôle. Oui, t'arrives à les mettre sur un petit terrain de vulnérabilité, de honte. Moi, j'ai bien aimé aussi ton épisode avec Léa Salamé.
Oui.
Je trouve super. Alors, en effet, son anecdote du 11 septembre, ça l'avait déjà raconté. Elle est fière, elle raconte tout le temps ce truc, mais qui est intéressant, qui est drôle. Mais ce qu'elle révèle, c'est sa note au bac, elle a eu la mention assez bien.
Oui.
Ça, tu sens qu'elle en souffre encore.
J'en souffre encore de ma mention assez bien.
Moi aussi.
Toi aussi, t'as eu mention assez bien. Vas-y, la mention assez bien.
13,9.
Ah, mais toi, t'as une mention assez bien glorieuse. Moi, 12,5.
Ouais, mais au moins, il n'y a pas de doute. Au moins, t'es pas passé à côté de l'occasion de ta vie d'avoir au moins une mention bien.
Ouais, ouais.
Tu vois, moi, c'est quand même un drame. J'ai eu 7. J'étais en philo alors que je faisais L.
Ouais,
donc, il m'aurait mis 8.
Ça
m'a niqué ma race. Il m'aurait mis 8. J'aurais eu mention bien. Et il m'aurait mis 10, j'avais peut-être même une mention très bien, et ensuite j'aurais eu confiance en moi pour le restant de mes jours.
Ouais. Est-ce que autour de toi, les gens ont eu mention bien et très bien ou pas?
C'est très genré, figure-toi.
Ouais.
Je me suis rendu compte que j'avais une tendance à m'entourer de femmes qui avaient eu la mention très bien et d'hommes qui n'avaient pas eu leur bac. Tu vois comme quoi les sorlades
en tout cas statistiquement les filles elles sont meilleures à l'école y compris au bac donc c'est peut-être toi c'est exagéré
pourtant je dénonce les doubles standards et qu'on en attende beaucoup plus des femmes que des hommes mais je l'applique moi-même à mes amitiés j'ai toujours pris des connasses de copines putain de brillantes mais souvent dépressives et ça c'est quand même le truc c'est que la mention très bien au final ça te flingue ta vie.
Ah, parce que tu crois ensuite que tu es super et en fait que tu n'es pas si super que ça?
Ouais, ou parce que tu es super, mais que c'est la meilleure nouvelle et puis qu'ensuite tout le reste sera... La vie ne te donne pas des mentions très bien, tu vois.
Ouais. C'est plus discutable.
Oui, sauf si tu deviens président de la République, qui est une forme de mention. Il a eu quoi comme mention, Macron?
Je sais pas. Il a peut-être pas eu mention très bien. Mais j'ai un autre exemple. C'est que moi, j'étais en terminale avec Clément Beaune, le ministre des Transports.
Oh oui, putain.
Le ministre des Transports, c'était mon meilleur ami en terminale.
Mais non.
Et Clément, tu vois, il a eu mention très bien. Et après, il a fait une vie très bien. Voilà, il a eu tout mention très bien. Il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, l'ENA, tout. Et,
tout très bien.
Tout très bien. Et ensuite...
Il a 69, pas bien.
Il avait un peu... Il s'était tracé et il a fait dire « Moi, je veux faire ça. » Et il a fait, quoi. Ça force l'admiration, quand même.
Oui, c'est vrai. Et après, de toute façon, c'est pas mal, les mentions assez bien aussi, parce que tu peux que te surprendre et ça te donne la pêche, quoi. Ouais. Ça te donne une envie de revanche.
J'étais la pire mention de mon groupe d'amis. J'étais au lycée, dans un bon lycée, à Condorcet, juste à côté d'ici, de là où on est, là. Vraiment tous, même ceux qui étaient un peu moins bons que moi, ils sont surpassés, ils ont eu mention bien. Moi, j'étais mention très bien. Et au bac, c'était vraiment. Et mon père, il m'avait dit ça va, donc pourquoi est-ce que tout le monde... Ça m'avait un peu... Et j'en garde une sorte de petite... De petite blessure, quoi. Ma petite amie de l'époque, qui mention très bien aussi, qui ensuite était normalienne et tout. Et moi, j'étais là moi, je fais Pierre-Léon Basterèche, un armateur baïonnais dans la haute finance, au 18e siècle.
Mais est-ce que c'est pas ça qui, au fond, cette mention assez bien, qui t'a mené vers le journalisme, humour, les vidéos, le fait de pas se prendre au sérieux?
Peut-être. En fait, j'ai beaucoup échoué. J'ai énormément échoué ma race d'un point de vue académique. J'ai vraiment tout raté. J'ai vraiment, tu vois, genre comme j'ai eu mention assez bien, puis que j'avais pas des, enfin, j'étais moyen, si tu veux, au lycée. J'étais assez mention assez bien. Et en fait, mention assez bien, c'est pas à partir de mention bien. En tout cas, à mon époque, ça commençait à devenir tu te détaches un tout petit peu du lot. Mention assez bien, non. Et donc, du coup, j'ai pas fait d'hypocagne ni de cagne. cagnes, alors que tous mes amis ont fait des hippocagnes et des cagnes. Et ben voilà. Et donc ça blessure aussi. Et ensuite, et donc après, j'ai glandé. J'avais un groupe de musique. Moi, j'étais un peu un glandeur comme ça, machin. Je fais des études d'histoire lentement, pas brillante non plus. Ensuite, j'ai passé des concours que j'ai tous ratés et que j'ai fini par réussir, mais tard, tu vois, tard, genre à 24 ans et demi, tu vois. Et voilà, et ensuite à la toute fin, oui, j'ai fait des trucs un peu bien, j'ai fait des trucs sélectifs, tu vois. Mais dans l'ensemble, j'ai foiros, quoi.
Ouais.
Et j'ai foiré parce que j'ai pas assez travaillé, vraiment, ça je le pense, parce que j'ai vu des gens vraiment un peu limité intellectuellement qui arrivait très bien, donc je pense que c'était dans mes capacités, tu vois.
Ouais.
Mais j'ai raté et j'en reste un tout petit peu, je suis encore un peu amer, tu vois. J'ai pas, quand je rencontre des gens qui ont fait Polytechnique ou Normale Sup, je fais et donc je veux toujours je cherche leur faille pour dire oui, mais enfin ils sont pas si bien que ça non plus, hein. Et j'ai un peu ce truc débile, quoi, mais duquel je pense que je suis jamais sorti. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a des fois où je prends un peu de recul et je me dis ouais, mais en fait ça m'a quand même construit, en fait.
Oui.
J'ai fait plein de trucs, je pense que j'aurais pas fait si j'avais pas échoué, tu vois.
C'est sûr que tu n'aurais pas été le même si tu avais fait hippocagne-cagne.
Ouais. Et toi, alors, comment s'est passé, toi?
Mais pareil, j'ai passé ma vie comme toi.
Ouais.
Vraiment, à échouer aussi. Je sais pas si c'est un truc des gens qui aiment les reliques.
Parce que c'est pas un truc de juif, enfin, ça on peut pas dire.
Ah non, les juifs, ils aiment bien réussir, mais moi j'étais déçue à chaque fois de rater. Attends, je sais pas, tu crois que j'ai aimé ça? Non, ouais. Premier gros échec, la mention au bac, hein, vraiment.
Ouais.
Et puis en plus, moi je j'ai pas supporté, j'ai voulu aller me plaindre, je suis allée voir la proviseure dans le truc pour demander à ce que ma copie soit réexaminée, je l'ai envoyée, puis en fait j'étais là, et puis tous les gens qui pleuraient autour, c'était que des gens qui n'avaient pas le bac et qui me disaient toi aussi, je te dis, non mais moi j'ai pas eu la mention que je voulais, ok, donc ça c'est pire que toi. et ensuite j'ai raté le concours du Conservatoire National, trois fois au troisième tour.
Oh.
Donc t'imagines.
Et
j'ai pas fait d'hippocagne-cagne alors que j'étais destinée, que machin, mais en fait j'ai pas, et donc finalement j'ai pas fait tous ces trucs qui étaient un peu attendus que moi, que je désirais, que j'avais, et j'ai fait d'autres choses, mais je crois que ça m'a mis les mains quand même dans le cambouis de la vie.
Oui.
Tu vois.
Oui, non, il y a un peu
de
sortir un truc en
du et que les voies royales, c'est très dangereux, et que tu grandis trop tard à la vingtaine.
Ouais.
J'ai vu plein de copains faire le Conservatoire National et en hériter.
Aujourd'hui, ils sont morts.
Ils ont un snobisme. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de leur snobisme.
Ouais.
Moi, à un moment, j'ai dû mettre à la cave mon snobisme, tu vois, parce que j'avais pas. Et puis tant mieux.
Ouais.
Tant mieux. Non, vraiment.
Et aujourd'hui, il n'y a pas des petits. T'es complètement guéri ou il n'y a pas
jamais.
Des petits.
Si, il y a toujours des petits trucs où ça me pique. Bien sûr, il y a des trucs où ça me pique. Je pense que c'est des petits complexes d'infériorité, des trucs où je me dis, c'est que je ne suis pas aussi intelligente ou aussi brillante ou aussi. Après, je pense qu'il y avait des bêtes de concours aussi. Il y avait des gens qui étaient très sûrs de qui ils étaient.
Mmh.
Et que moi j'étais totalement à côté de la plaque aussi, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'au final, moi, de mes scènes de concours, quand j'ai compris pourquoi j'avais pas eu le conservatoire, parce que je faisais que des grandes scènes de tragédie, tu vois, machin, et qu'au final, c'était la comédie qui m'attendait, vois, c'était un truc de beaucoup plus. En fait, je me souviens d'un personnage que j'hésitais à passer en concours, qui était Angélique dans Georges Dandin de Molière, qui est hyper rigolote.
Je me souviens spécifiquement d'Angélique dans
On veut
Dandin.
La marier. Ouais. Et le mari, il est nu, elle est noble et son mari, il est riche, ou je sais pas, ça a toujours ces histoires de mariage entre. Et au final, elle enferme son mari dehors et elle refuse de le faire rentrer. Ouais. Et c'était une scène hyper rigolote. Et en final, pour moi, c'est trop rigolo, tu vois.
Ouais.
Et au final, et c'est étonnant quand même, le chemin, en fait, c'était un petit peu. Peut-être que tu vois, ce mépris des choses rigolos, c'est ce qui fait que maintenant j'ai autant d'estime pour les choses rigolotes.
Ouais.
Et je sais pas si toi, t'as ça avec tes invités, mais au final, moi, ce que j'aime le le plus, c'est ceux qui ont de la fantaisie.
Oui, oui.
Tu vois, bien sûr. En fait, à la fin, les gens intelligents sans fantaisie, tu te rends compte qu'il n'y a rien à en tirer. On s'en fout, quoi.
Oui, oui. Bah, moi, après, j'avoue que j'aime beaucoup les ingénieurs aussi. Mais j'aime bien, en fait, les gens qui ont un peu les deux, tu vois. Mais genre, devant les ingénieurs, j'ai un peu ce truc de genre, ah, voilà.
Ouais.
Parce que dans ce genre de métier hyper... En fait, ce que tu peux laisser au bullshit est très très faible par rapport à autre chose. Tu vois, il n'y a pas de bullshit. Il n'y a pas genre, oui, mais non, mais alors le pont, il n'aurait pas dû s'écrouler. Si, connard. Et donc, il y a un petit peu ce truc-là aussi avec les ingénieurs. Mais en tout cas, ouais, moi, mais c'est quand même étrange ce truc de... C'est un truc central, ça, chez tout, en gros, dans la société en général, c'est on considère que la tristesse est plus profonde que la joie, que les accords mineurs, c'est plus profond que les accords majeurs, que le rire, c'est nécessairement plus superficiel que les larmes. Et pourquoi ? Tu vois, je suis pas sûr de pourquoi, tu vois. T'étais complètement là-dedans, toi, avec ton...
J'étais complètement là-dedans, mais moi, je pense que c'était quand même aussi un peu l'histoire héritée de mes parents.
Oui.
Ma mère, à un moment, elle a créé une boîte de distribution pour sortir les films de mon père.
Oui.
Et mon père, il produisait des films d'auteurs d'art et d'essai sur la condition ouvrière en Mongolie intérieure.
Oui.
Tu vois, donc, c'était ça l'art, tu vois.
Oui.
C'était donc au final, si c'est sûr qu'au moment où je dis caca et que les gens rigolent, même si je suis contente que les gens rigolent, au fond de moi, il y aura toujours ce oui, ben ils rigolent parce que j'ai dit caca.
Enfin, tu vois.
Mais il
y a des rires superficiels, ça existe. D'ailleurs, je sais pas si toi tu l'as sur scène, mais il y a des fois où tu dis un truc, ils vont ça rigole, mais est-ce que je suis vraiment fier de ce rire? Tu vois, les rires dont t'es fier, c'est les rires où tu dis genre, j'ai fait un truc personnel, j'ai fait machin, et j'ai amené, vous voyez pas où ça allait aller, et il y a pas de, et vous savez pas très bien pourquoi vous avez ri aussi.
Ouais.
C'est pas genre voilà. Moi, je sais par exemple que moi, comme j'ai un phrasé un peu ampoulé, je fais des phrases très le français, si tout à coup je dis fils de pute, ou je dis un gros mot, ou je dis connard, tu vois, tout de suite il y a un petit décalage qui fait que ça va être rigolo, mais c'est à une recette en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que les rires qui viennent d'une recette, on en est moins fier, et sans doute qu'ils vont un peu moins profond que certains autres rires, quoi.
C'est vrai, mais par contre les rires sur le caca, en fait, au final c'est très bien. Et puis je pense que tu vois, sur ces trucs de jeunesse, d'élitisme, il y a plein de trucs maintenant de gens à concours que je méprise un peu.
C'est-à-dire
que c'est vrai que les ingénieurs, quand ils parlent de pont, je trouve ça touchant.
Ouais.
Mais par contre, Sciences Po, l'ENA, je crois que je méprise
un peu.
En fait, j'ai un peu de la peine pour eux, tout ça pour ça, pour finir en politique. Enfin, tu vois.
Ouais.
Et puis, en fait, au final, tu vois, les pauvres sur l'écologie, personne ne bite rien. Je dirais, en fait, c'est terrible. Je me dis, mais je serais en dépression, t'imagines, si je serais à... Au final, c'est toujours impressionnant quand tu rencontres des têtes, mais après, est-ce qu'il y a des gens ou des parcours de réussite où je suis en mode, oh, vraiment, wow. Toi, c'est quoi les... Quelles sont les personnes que tu admires le plus?
Les personnes que j'admire le plus, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Voilà, c'est assez systématiquement ça, quel que soit leur domaine. Et donc, ça veut dire des gens qui s'y connaissent énormément dans un domaine et qui continuent passer la trentaine, la trente-cinquaine, la quarantaine à apprendre des nouvelles choses et à approfondir ce qu'ils font. C'est assez, je le remarque. Et un corollaire de ça, c'est les gens très compétents, quel que soit leur domaine de compétence. Ce qui veut dire souvent des gens précis, tu vois. Et genre, j'ai une tolérance, mais presque zéro, pour le bullshit, en fait. C'est genre des gens qui disent, bon, bah alors ça, même dans la technique, des gens, ça c'est mieux que ça, mais pourquoi? Bah, c'est tout, c'est mieux. Et genre, j'ai pu avoir la moutarde qui me montonnait très vite. Même un vendeur de chez Darty qui me prend de haut pour m'expliquer qu'un frigidaire est bien mieux qu'un autre, machin, etc. Et que je lui dise pourquoi. Il dit, mais écoutez, monsieur, ça ne se compare pas. Ça m'énerve. Voilà. Donc, en fait, j'aime les gens qui travaillent beaucoup, qui approfondissent et qui sont compétents. Encore une fois, mais genre, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un baptême de rafting, là où t'es contre une sorte de bateau gonflable sur des, j'ai fait ça dans les Alpes. et le moniteur de rafting, mais il était tellement précis dans tout ce qu'il disait, il répondait à ta question avec genre calme et en t'expliquant tout pour que tu comprennes tout du début à la fin, il anticipait, il était en plus, il était un peu rigolo, il faisait des blagues, c'était la perfection, tu vois. Et ben voilà, et ben ça, c'est le genre de gens, j'aimerais qu'ils soient, j'adore. Et j'en parle encore maintenant parce que voilà, et bien sûr, ça marche aussi pour des ingénieurs et pour des comiques et pour tout ce que tu veux, mais voilà, c'est ça que j'admire en fait. Quoi.
Ouais,
voilà.
Mais c'est vrai, c'est beau, c'est touchant, l'exigence, et ça marche pour tout. C'est vrai que c'est. La dernière fois, j'ai pris un taxi, il s'est planté d'itinéraire, il me l'a tout de suite dit, il s'est excusé, il a dit voilà, alors là, ça a rallongé votre trajet, je vais vous faire un parce que j'ai pris les machins, mais en fait il aurait fallu couper par là, etc. Et l'honnêteté.
Mais moi ça me met les larmes aux yeux. Moi. C'est genre quand tu aurais pu rouler quelqu'un et que tu le fais pas, ouais. Et que personne s'en serait rendu compte, ouais. et voilà en fait. Mais généralement oui, enfin les gens un peu moraux, mais qui ont une sorte de morale de la vie quotidienne, tu vois. Je dis pas forcément les gens qui font du compost ou qui prennent jamais l'avion, tu vois. Ça c'est une morale universelle. Mais les gens qui me touchent le plus, c'est les gens qui ont une morale de la vie quotidienne dans la façon dont ils traitent les gens autour d'eux, quoi. Ouais. Et même dans un film, ouais. Un truc d'honnêteté dans un film, un type qui, je sais pas, il rend de l'argent qu'il a trouvé par terre. Ouais. Si c'est bien mis en scène, moi je pleure. Voilà, direct.
Ouais, c'est clair. Tout sauf les loubards.
Les loubards ?
Les loubards, ouais, bah les gens qui t'entubent, quoi. C'est vrai que ça, c'est qui manie. Ça, c'est vrai que c'est insupportable.
Ouais.
Je vais passer au petit questionnaire de Proust.
Mais bien sûr.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
Spécifiquement, un être humain ou non, un homme avec un grand H ou,
Non, à l'ancienne. C'est Proust, donc c'est genré. Ensuite, il y aura les meufs.
C'est genré. D'accord. La qualité, c'est
ça
que
peut
je
être
préfère
la même, hein.
chez un homme. Mais je ne sais pas si elle est si différente de celle que je préfère chez une femme. Hein. La fiabilité.
Mmh. Ouais.
Voilà.
Le principal trait de ton caractère ?
La sensibilité. Très, très sensible. Je pleure tout le temps.
Je réfléchis à ta réponse à l'autre question, mais ça ne m'étonne pas que tu aies pris un producteur qui ait des toilettes sèches, tu vois.
Ouais.
T'as pris le producteur le plus fiable. Ouais. Je pense que t'aurais pas supporté de te faire entuber, quoi.
Non.
Je pense que t'aurais pris un producteur à Rolex qui prend des jets, ça t'aurait rendu malade.
Ouais, bah c'est je veux dire, c'est immédiatement suspect, ça.
Ouais.
Tu vois, c'est genre, pourquoi ?
D'où ?
Pourquoi ?
Ouais.
Je suis allé une fois chez un comptable comme ça, le mec, il me reçoit dans un appartement haussmannien de 180 mètres carrés, tout ça, machin, et des trucs avec des trucs trop beaux au mur. Je dis, mais. Alors, c'est peut-être aussi parce que t'es un excellent comptable, ça c'est possible aussi.
Ouais.
Mais il y a un petit, tu vois.
Ouais. Donc t'es très sensible.
Ouais, vraiment très très fort. Je suis sensible en particulier. Enfin, je prends un exemple, mais le ton de la voix, le ton avec laquelle on m'adresse la parole. En fait, tu peux tout me dire si le ton est gentil. Tout, et en revanche, tu peux rien me dire du tout si le ton, il est un huitième de ton au-dessus de ce qu'il faut pour être agréable, quoi. C'est genre, je pleure pas, mais je deviens ouf, quoi.
Tu t'énerves ?
Je m'énerve et je commence à haïr les gens, mais fort, 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 quoi. Je peux sortir de mes gonds complètement et genre... Et de la même façon, n'importe quelle remarque, en fait, un ton désagréable pour me parler de quoi que ce soit, en fait, ça m'offense, quel que soit ce qu'on dit. Et en revanche, des remarques qui... Tu veux, je pense que je le disais à la petite loge à l'époque, moi je suis à la fois juif et portugais. Une remarque, tu vois, une blague, tu vois, genre contre les portugais ou contre les juifs, c'est pareil pour moi. Il n'y en a pas une qui est pire que l'autre. Alors qu'on va me dire qu'il y en a une qui est bien pire que l'autre, qui est la blague antisémite. De la même façon, une remarque sur n'importe quoi de comme ça qui est socialement beaucoup pas acceptable. En fait, moi, j'ai pas de différence là-dessus. Moi, la différence, elle se fait entre est-ce que ta remarque, elle a été faite de façon gentille ou pas gentille. Une remarque.
J'ai une question. Mais si on te fait une remarque antisémite, mais avec une voix gentille.
moi j'ai toujours ce truc de quelle est ton intention, tu vois.
Je rigole.
Non mais c'est ça, c'est genre entre nous, hein. Bon, hein, vous l'avez bien cherché.
Mais là le mec a l'air hyper sympa.
Mais voilà, tu vois. En fait, c'est vraiment ce truc de l'intention qui d'ailleurs est en train de se perdre complètement dans la façon dont on juge les blagues. L'intention n'est plus c'est devenu un axiome de la façon dont on juge les trucs, c'est genre l'intention n'a pas à rentrer en ligne de compte quand tu juges une blague. Moi, elle rentre en ligne de compte sa race, tu vois.
Bien sûr.
C'est genre tu peux me dire n'importe quoi si tu arrives à me transmettre l'idée que, alors bien sûr, si je t'ai jamais vu de ma vie et que tu commences direct par vous l'avez bien cherché, non, je vais faire peut-être on se dit trois trucs avant que tu fasses cette blague, je sais pas, tu vois. Et en revanche, une remarque désagréable sur mes chaussures, dite de façon désagréable, mais genre va mourir, quoi.
Ouais.
Va mourir beaucoup plus qu'une remarque, si tu veux, qui serait peut-être socialement moins acceptable sur le judaïsme.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'en fait, parfois, moi, c'est pas forcément la profondeur des propos, mais juste si les gens ont une tête gentille ou une tête méchante et le ton de leur voix, et parfois, on se dit, mais pourquoi cette méchanceté-là, quoi.
Ouais.
C'est vrai que c'est insupportable et ça donne envie de taper. Après, en ce moment, il y a un jeu très rigolo avec mon copain, c'est que lui, c'est quelqu'un de très aimable,
oui,
qui plaît beaucoup, et alors quand les gens ne l'aiment pas, j'adore. Parce que c'est tellement rare.
Oui.
En fait, d'habitude, au premier abord, il va plus plaire aux gens que moi. Parce que, je sais pas, il est plus aimable, plus gentil. Puis je pense que moi, peut-être parfois, je vais être plus rapide ou plus direct, ou mettre peut-être un peu mal à l'aise plus rapidement, alors que lui, il va faire des tonnes de miel, oui, et de courbettes. Mais aux inconnus, tu vois, il aime, oui, plaire aux inconnus. Et quand tout d'un coup, samedi soir, on était à une fête, et il y a une meuf qui lui marche sur les pieds, et il fait. Et lui, tu vois, très poliment, genre, aïe, où c'est mon pied. Et en fait, elle l'a pas calculé. Son interprétation à lui, c'est qu'elle me draguait, moi. Mais donc, résultat, elle l'a limite poussé, puis elle m'a un peu dragué et tout, la meuf. Je lui ai dit, c'est le risque de ma coupe. C'était une,
ouais,
soirée lesbienne. Hein. Il y avait la pote,
ouais,
il y avait beaucoup de.
Ouais.
Donc, résultat. Et là, il était. Il était vexé comme un pou. Et j'avoue que ça me fait quand même plaisir. Parce que c'est tellement rare, d'habitude, si on va à la boulangerie ou quoi, les gens le choisissent.
Oui.
Les gens échangent avec lui.
Oui. Mais raison, tu dis.
A raison, mais parce qu'il n'y a, ouais, pas plus d'efforts.
Oui, oui, oui.
Et parfois, c'est trop. Tu vois, si on est dans le taxi, tout le parcours de Kylian Mbappé pour plaire,
ouais,
au taxi, tu vois, je veux dire, c'est beaucoup d'énergie pour plaire à des inconnus.
Oui,
et,
oui, oui,
mais,
oui,
et quand,
oui,
justement, il se foire, quand la boulangère lui dit pas bonjour et qu'elle se tourne vers moi, je suis en mode oh.
Oh.
ça fait mal. Je sais que ça lui fait très, très mal.
Oui, oui, non, ça, je comprends très bien. Ouais. Ouais.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur fiabilité. La fiabilité tout le temps. Quand même leur humour. Hein. Ouais, quand même très fort. C'est-à-dire que les gens qui me font pas rire, j'ai dû. Enfin, je pourrais toujours être. Mais il y a un cap qu'on passera pas.
Ouais.
Tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Des blagues.
Ton principal défaut?
Principal défaut. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent non, mais pas du tout. Mais genre, ce truc que je te dis, genre qu'on ne m'adresse pas la parole sur le bon ton, je peux péter un câble. En fait, je peux être un peu colérique. Même si je sais qu'on ne dirait pas. Voilà. Je peux être un peu colérique, c'est genre vraiment genre. Tu sais, genre, je peux vraiment commencer à faire. Tu vois, à te regarder comme ça et à faire genre. Quoi? Ah ouais, parce que. Tu vois, et à même à hausser le ton et tout, et j'en suis pas fier, mais voilà.
Il faut bien se défendre.
Bah ouais, mais je pense que c'est pas utile. Enfin non, en fait c'est jamais bien de s'énerver. C'est toujours mieux. Et d'ailleurs, ça j'ai aussi une façon de ça m'est arrivé de désarmer des gens comme ça. C'est des gens qui sont désagréables,
mm-hmm,
et t'es tellement gentil en retour qu'ils font genre. Parce que en fait, par contraste, si t'es adorable, genre ils commencent à se rendre compte que leur ton ça va pas, tu vois. Et donc et j'ai vu des fois où genre. Ah, ça se dégonfle complètement et il s'améliore. Et là, je me dis, voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut faire.
C'est vrai qu'il faudrait avoir le courage de faire ça. Ouais. Sarah Silverman, elle dit qu'elle fait ça quand elle est dans les bouchons ou à Los Angeles, mm-hmm, et qu'il y a quelqu'un qui lui parle mal en voiture. Elle fait « Oh, hi !» comme si elle reconnaît la personne.
Ah, oui.
Et la personne meurt de honte en croyant qu'ils se connaissent.
Ouais, ouais, ouais.
Et ouais, voilà. Bah, c'est de l'énergie. Il faut être vraiment...
Ouais.
Ton occupation préférée.
Ah, un truc vraiment honnête. Mon occupation préférée, je pense que c'est quand même regarder des films bien dans le lit le soir après avoir bien travaillé toute la journée avec ma petite amie.
Mmh.
Voilà. Ça, c'est, si je suis vraiment l'honnêteté suprême, c'est ça, de s'y tenir ça. C'est vraiment c'est... le moment où, des moments où je me dis genre, ouais. Oh, putain, la vie là, c'est bien, c'est chambé. C'est souvent là.
Vous êtes content de la distance entre votre télévision et le lit? C'est quelque chose qui vous convient?
Il y a plein de gens qui me disent, ah, putain, pourquoi il faut pas mettre des télévisions à côté des lits parce qu'après tu baises moins, tout ça, machin.
Ah bon?
Je pense pas. On est content, ouais. C'est bien. Vraiment, puis tu sais, il fait chaud et t'es en sécurité.
Ah ouais.
Et t'es avec la personne que t'aimes. Et t'es tout ça. Et le film il commence. Et c'est comme au cinéma. Et surtout, j'ai dit, après avoir bien travaillé, c'est important.
Ouais,
C'est-à-dire que si t'as
récompense.
Rien foutu de la journée
non,
et que tu fais ça,
profiter.
Tu profites pas autant. Mais genre, tu sais, t'es content de toi. T'as trouvé le bon truc. T'as trouvé un truc de montage que t'avais pas prévu. T'as dénoué un nœud professionnel. Ou même juste t'as fait une bonne date de spectacle et tu rentres et tu fais ça c'est la vie quoi.
Ouais.
C'est trop bien, voilà.
Ton idée du bonheur?
Mon idée du bonheur, je pourrais faire une journée idéale, c'est une journée où je pense que je fais un tout petit peu de sport parce que j'en fais jamais, mais je me rends compte que quand j'en fais je suis content, où j'ai appris quelque chose de nouveau, où j'ai travaillé je suis arrivé à créer quelque chose que je trouvais bien, et où j'ai passé du temps avec des gens que j'aimais et où j'ai rigolé. Voilà. C'est dur de dire le bonheur en général parce que c'est fluctuant, mais s'il y a une journée où il se passe toutes ces choses-là, je pense qu'à la fin je fais ouais, là j'ai été heureux aujourd'hui.
Ce que tu détestes par-dessus tout?
J'avais envie de dire les nazis. Parce que...
Non, c'est ce que t'adores.
C'est ton sujet préféré.
C'est
vrai que les nazis, non, genre, je suis contre leur idéologie.
Oui, oui.
Mais c'est tellement exagéré dans le mal.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu caricatural.
C'est si loin, quoi. C'est genre, il n'y a pas un.
Ouais.
C'est tout. C'est waouh. Ouais. C'est vraiment. Et tout ça avec des uniformes de méchants.
Ouais, ouais, sans aucun humour.
Sans aucun humour sur rien. Tu vois,
ouais.
C'est chaud, quoi. Donc, ça, mais c'est vrai que du coup, je pourrais effectivement pour dire que j'aime bien. Non, donc en fait, non, j'adore les nazis. ce que j'aime. En fait, ça fait tellement développement personnel de dire ça, mais bon, ça vient un peu avec mon spectacle aussi, mais genre les gens, la fausseté, tu vois, sentir dans un ton de voix que genre rien de ce que tu viens de dire n'est vrai.
Ouais.
Et je le sens, j'ai du mal, je pourrais pas le prouver,
ouais.
Mais vraiment, c'est tellement ce que tu dégages.
Ouais.
Et voilà, genre. Et alors, je peux dire aussi, franchement, ça se recoupe un peu, mais genre. Le bullshit, les gens qui disent une phrase, une sentence, et tu sais que c'est faux,
ouais.
Et ils l'ont dit avec l'assurance comme ça, et ça je méprise tellement ça que ça me donne des voilà. Et d'ailleurs souvent je confronte gentiment, enfin je me confronte un petit peu aux gens quand ils font quand ils font des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit il y a pas si longtemps, je sais plus, tu sais, genre ah putain, non, ça me reviendra. Mais
ces gens-là sont dans l'univers un peu genre des cinoches, des prods, tu vois, de séries, des plateformes.
Il y a ça.
C'est beaucoup. Toi, t'es quand même un petit peu protégé. À Inter, c'est quand même des gens assez réglo.
Oui, oui, oui. Non, mais ça peut être un sommelier, par exemple.
Je me dis,
tes mots sont exagérés. Tes mots sont exagérés, c'est pas... non, c'est pas...
c'est pas un grand cru.
C'est pas un grand cru, c'est pas... Il y a un truc qui peut m'énerver chez un sommelier où tu dis, mais... Et même, tu sais très bien que j'ai pas compris ce que t'as dit.
Ouais.
Alors arrête de faire genre.
Ouais.
Tu me parles comme si j'étais un sommelier moi aussi.
Ouais.
Et tu fais exprès de faire ça. Parce que tu sais bien que ça crée un petit truc et que je vais pas oser te poser une question.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ce que tu détestes par-dessus tout, les sommeliers. Et comment aimerais-tu mourir?
Donc il ne faut pas dire dans son sommeil sans m'en rendre compte, parce que ça évidemment c'est tout ce que tout le monde veut. Non, alors soit, alors voilà, je peux dire soit dans mon sommeil sans m'en rendre compte, ou pas dans mon sommeil. En fait pas dans mon sommeil, ça peut être sans m'en rendre compte.
En faisant l'amour avec une personne morte comme dans ton podcast, les questions.
Non, en fait, pas forcément dans mon sommeil, mais je vais dire sans m'en rendre compte. C'est-à-dire sans voir la mort en face. Donc sans savoir que je vais mourir. Donc dans le sommeil, c'est très bien, mais je veux dire, s'il y a quelqu'un qui là vient discrètement derrière moi et me tire une balle dans la tête par derrière, ce sera horrible pour vous. Hein, ce sera vraiment très très triste. Et sans doute, vous aurez besoin d'un peu de psychothérapie pendant un moment. Mais pour moi,
Libération, finito.
Enfin, c'est vraiment parce que c'est vraiment pas la mort qui fait peur, c'est la conscience qu'on a de la mort. Mmh. Et donc si j'en ai pas conscience, mais yes, pas de problème quoi. Et ensuite, soit ça, soit si j'en ai conscience, une mort glorieuse quoi. Voilà, en aidant.
Ah ouais.
Quelqu'un. Tu vois, genre en sauvant un enfant.
Tu dis ah waouh.
Tu vois.
Ah
ouais. Ouais, c'est ça. Tu as un truc glorieux. Mais pour dire, ça ne tient qu'à moi d'avoir une mort glorieuse. Donc, mais voilà. Si une mort est inéluctable, ou d'arriver à avoir le courage de faire une action qui juste dans la perspective.
C'est vrai que moi, vu que parfois je fais rarement des choses bien, j'aimerais, si jamais je fais une chose bien, mourir pendant, comme ça. on se souviendra de moi pour ça. Et c'était la fois où elle a donné un clochard et elle est morte.
Et elle est morte.
Mais au moins, elle est retenue pour ça.
Parce qu'il lui a pris son argent et ensuite il l'a tuée.
Mais c'était une bonne action à la base.
C'est son grand cœur qui l'a tuée. Voilà, c'est ça.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Je pense énormément à la mort depuis 2 ans aussi, parce qu'il y a des gens qui sont morts autour de moi, et donc ça a mis la mort vraiment devant mes yeux beaucoup plus qu'elle l'était jusqu'à présent, et en plus c'est un trait de caractère un peu historique, donc ça n'a fait que renforcer ça. Et
depuis la petite 3 semaines, c'est sinon le thème de l'actualité.
En plus c'est vraiment j'ai une sorte de mélancolie un peu permanente, mais elle n'est pas pour l'instant handicapante, c'est-à-dire que j'arrive à travailler, à faire des projets, à faire des trucs. Je suis pas en dépression, mais je me dis j'ai plein de trucs à faire et je vais mourir, et voilà, faut que je les fasse quoi. Voilà, donc je pense par exemple à avoir des enfants, ce que je n'ai pas encore, alors que Dieu sait si j'ai l'âge d'avoir des enfants. J'ai une grande vieillesse.
Mais ça, c'est un chouette projet.
C'est un chouette projet, ouais, c'est un chouette projet. voilà, mais c'est je donc peut-être que je vais avoir des enfants dans pas si longtemps que ça, mais j'ai vraiment envie. Ouais. Et toi aussi, t'as envie d'avoir des enfants ?
Oui, moi aussi.
Et toi, t'étais beaucoup...
J'ai 34 ans, je vais avoir 35, donc c'est le moment... Ouais. Mais non, c'est mon copain qui est un peu plus jeune que moi. Moi, j'ai super envie, un peu angoissée du temps que ça me prendra, peut-être, et de devoir faire des sacrifices. Heureusement, je me dis, j'arrive à la bonne période où je vais pouvoir partager la charge mentale vraiment à 50-50. Non, mais vraiment. Donc, je suis déjà en train de faire des comptes d'apothicaire, me dire, si jamais gamin, je m'en fous, j'allaite pas, c'est biberon pour faire moite.
Ouais.
Non,
mais je comprends très bien.
C'est vrai. Là, j'ai peur. Mais je pense qu'il faut pas être tout le temps dans cet esprit de envie de me faire douiller dans l'histoire. Mais, donc, si je me dis que oui, en effet, c'est. C'est un truc mignon, et que c'est vrai que c'est aussi un peu... c'est la bonne action que tu peux faire tous les jours, au final.
Oui,
tu vois, parce que
de
t'occuper de quelqu'un, tu transmets, tu vois, c'est quand même, au fond, même si ça peut paraître égoïste de se reproduire, au fond, si tu fais en sorte que, tu vois, déjà là, je réfléchis en termes d'argent que je pourrais mettre dans des vacances, que peut-être je vais pas mettre dans des vacances pour pouvoir peut-être payer, mettre de côté pour... Donc je sais déjà, tu vois, je me dis, donc c'est une bonne action.
Mais en fait, moi j'ai un peu réfléchi à ce truc de, tiens, est-ce que c'est égoïste de faire un enfant ? Je parle même pas du fait que, est-ce que c'est bien pour la planète ou pas, parce que je pense que c'est discutable dans l'ensemble. Ouais. Mais est-ce que... Parce qu'en fait, cet enfant, il n'existe pas encore. Donc en quoi est-ce que t'es gentil avec quelqu'un vu que cette personne n'existe pas ?
Oui.
Mais il y a quand même, donc on pourrait dire, de toute façon, c'est égoïste.
Ouais.
Mais il y a quand même une disposition à vouloir donner à un autre être, même si cet autre être, il n'existe pas encore, qui est une disposition, je pense, elle est un petit peu généreuse.
Oui.
Et je pense qu'il y a des fois des gens qui veulent pas d'enfants parce qu'en fait ils veulent pas d'emmerde, ils veulent penser qu'à eux, ils veulent pas qu'on les fasse chier. Donc en fait, je pense pas, c'est dur de dire que c'est que égoïste de faire un enfant.
Ouais, c'est vrai. Après, les personnes dans mon entourage qui n'en ont pas sont vraiment des saintes.
Pardon.
Oui, en fait, mais je pense que c'est.
Les qui n'en ont pas sont vraiment des saintes.
D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est quand même des êtres supérieurs.
Ouais.
Par rapport à ceux qui en ont.
Ouais.
Mais par contre, je pense qu'il y a moyen d'être parent et d'être un bon parent. Et ça, c'est pas... Et je pense que c'est en n'essayant pas de dire à ton enfant, regarde comme tout ce que j'ai fait pour toi. Et ça, c'est un peu dans la vie pareil. En fait, je me dis, la seule manière de faire une bonne action, hélas, c'est qu'elle reste inconnue. C'est que personne ne le sache, tu vois.
Oui, ça pourrait être la définition de la générosité.
Voilà.
C'est genre, en fait, tu fais une action uniquement pour ses conséquences ce bénéfique et pas pour en retirer un bénéfice, quoi, toi-même, quoi.
Bah ouais.
Mais bon, après, on pourrait dire, mais justement, en fait, ça reste qu'il t'en, t'as quand même un bénéfice. Enfin,
Un bénéfice narcissique.
Bah oui, parce que, ouais, je suis gentil, hein, mais bon, là, on tombe dans, quand même dans un trou, un espèce de vortex, de machin.
Ouais.
Je suis assez d'accord pour arrêter de dire quand tu fais une action généreuse
et que tu t'en vantes pas,
ça va.
Ça reste une bonne action.
Ça va. Mais après, est-ce que moralement, tu as je me dis, est-ce que tu vas vouloir avoir, tu peux faire une action parce qu'elle est bien, et par ailleurs, avoir envie d'avoir un petit dividende de ta gentillesse.
Ah ouais.
Est-ce que ça salit complètement ton action généreuse?
Tu veux
ou
dire
alors,
si tu défiscalises?
Ah. Non, mais je sais pas, on pourrait dire, tiens, pas forcément pour l'enfant, tu vois, mais genre une action généreuse en général, tu vois, c'est genre, ouais, je donne 1 million à la Croix-Rouge, mais je le dis. Tu vois. Est-ce que c'est quand même pas mieux que de pas donner 1 million d'euros à la Croix-Rouge?
Si, mais ça reste moins bien que de donner et de ne pas le dire,
tout
qui est le summum de la classe.
C'est le summum de la classe. Mais est-ce que le truc chrétien, c'est de dire chrétien, et puis maintenant on pourrait dire oui, c'est un peu essaimé partout. Mais le truc chrétien de départ, c'est même pas bien de s'en vanter. De le dire. Moi je dis, bon, c'est quand même mieux que de pas donner 1 million.
Ou alors ce que tu peux faire, couper la poire en deux, ne pas le dire juste à une personne dont tu sais qu'elle a la langue bien pendue.
Oui, mais Dieu te regarde et il connaît tes petites manigances.
Qui, elle, le répétera, mais toi, t'auras jamais rien dit.
Exactement, c'est ça. Je lui avais dit de pas le dire.
Merci, David.
Merci à toi.
Et voilà, c'était David Castello-Lopez. J'adore sa définition du bonheur en décrivant une journée heureuse. Et c'était très chouette de revenir sur ses interviews de Small Talk avec Stéphane Bern, Léa Salamé, Big Flo et Oli. On a réalisé qu'on avait beaucoup de points communs. La sensibilité, nos débuts à la petite loge, des connaissances communes. Pablo Mira, une mention commune assez bien au bac. Les bienfaits de nos échecs, la joie naïve pour les reliques, l'angoisse des couacs techniques. J'étais très impressionnée par sa culture et j'ai tout de suite googlé après notre entretien « couronne d'épines ». Wikipédia dit la sainte couronne ou couronne du Christ est, selon la tradition chrétienne, la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa crucifixion. Cet instrument de la passion mentionné dans les évangiles canoniques selon Marc, Matthieu et Jean est évoqué par les premiers pères de l'Église comme Clément d'Alexandrie ou Origène, faisant partie des reliques attribuées à Jésus. Elle devient un symbole chrétien. Plusieurs sanctuaires affirment posséder cette relique. L'archevêché de Paris prétend la posséder au sein du trésor de la Sainte-Chapelle. Mais il est fait mention de la Sainte-Couronne ou un de ses fragments au palais électoral de Munich, en la basilique Saint-Domico de Bologne, en la cathédrale de Pise ou de Trèves, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'une relique de première classe, dont d'une sainte épine qui a été enchâssée dans un reliquaire en forme de couronne d'épines, ou de contact, transfert de la sacralité de la sainte épine en la mettant en contact avec un morceau de bois devenant lui-même une relique. Donc j'ai googlé après trésor de la Sainte-Chapelle et la Wikipédia dit « Les reliques de la Sainte-Chapelle sont les reliques du Christ acquises par la monarchie française durant le Moyen-Âge et aujourd'hui conservées par l'archevêché de Paris. » Et l'archevêché de Paris, c'est Notre-Dame. Et voilà. Et j'irai, c'est sûr, à Aix-la-Chapelle visiter le buste de Charlemagne dans son reliquaire. Petit erratum, j'ai un côté vendeuse de tapis, j'ai lâché un mini mensonge. J'ai raté 2 fois le concours du Conservatoire National au 3e tour. Pas 3 fois. La 3e fois que je l'ai passé, j'étais déjà prise à ce moment-là pour les liaisons dangereuses. Donc c'était vraiment par pur orgueil puni car j'ai échoué dès le 2nd tour. Je vous laisse, l'épisode est déjà un peu long, mais j'ai adoré cette vraie discussion quand l'invité me retourne les questions qu'on échange naturellement et qu'on devient un peu amis. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Je vous embrasse, à très vite.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.